when it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver en ce mercredi soir. Soir info de 22h30 à minuit pour décrypter toute l'actualité du jour en compagnie de Céline Pina ce soir. Bonsoir chère Céline.
Bonsoir.
Politologue, journaliste, Franck Tapiro est à vos côtés. Bonsoir Franck, publicitaire, merci d'être présent ce soir encore. Jonathan Sixou, journaliste pour le magazine Causeur. De l'autre côté de la table, le président Jean-Claude Dacier est parmi nous, chroniqueur politique. Comment allez-vous cher Jean-Claude ?
Ça va, ça va. La journée a été belle pour les Marseillais.
La soirée donc, parisienne vous a revigoré ?
Un peu pour moi, donc.
Ouais, voilà. Ça vous a fait plaisir. Bon, bah écoutez, on va s'occuper de vous un peu après l'émission.
Ah ouais, on verra ça quand même demain.
Karim Abrik, qui est évidemment avec nous également, comme chaque soir, de la rédaction de CNews. Tiens, une question, Jean-Claude, pour commencer l'émission, avant d'évoquer toutes les actualités majeures du jour. Est-ce que vous connaissez Jules ?
Je ne l'ai pas reconnu, pour être tout à fait franc. Alors, j'étais dans le studio d'Europe 1, on ne voyait pas très bien. Mais honnêtement, il faut que je sois honnête avec moi-même et avec vous, je ne l'ai pas reconnu.
Mais est-ce qu'il y a deux heures, vous connaissiez Jules ?
Oui, parce qu'on parlé il y a quelques jours à l'occasion de son arrivée prochaine pour deux concerts ou trois concerts, je ne sais plus où.
Il remplit les stades, c'est un rappeur majeur. Jules, ben, c'est le signe de Jules.
C'est un
Franck Tapiro qui vous fait le signe. Voilà, il mime le J avec ses mains.
Et J-U-L.
J-U-L, ouais. Oui, ben, vous connaissez encore mieux que moi.
Ça correspond assez bien à la vision profonde qu'a le président de la République.
Alors, venons-y.
À la société française.
Patience, Jean-Claude. Je vais expliquer aux téléspectateurs qui n'ont peut-être pas suivi cet après-midi pourquoi nous parlons de Jul, puisque c'est donc Jul, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, le rappeur marseillais, le plus gros vendeur d'albums de l'histoire du rap français, hein, 4 millions d'albums vendus, qui a été désigné donc aujourd'hui pour allumer le chaudron olympique dans la cité phocéenne, un événement qui a duré toute la journée. Il y a eu la fameuse arrivée du 3 mâts, le Bélème dans la rade de Marseille, qui est arrivée dans le vieux port également en fin d'après-midi pour donner le coup d'envoi du parcours de la flamme olympique jusqu'à cette cérémonie d'ouverture qui, vous le savez désormais, aura lieu le 26 juillet. Et cette séquence, donc, comme clou du spectacle, Jul qui vient embraser le chaudron, regardez comme si vous y étiez. J'ai vu des têtes se dandiner sur le plateau, Céline Pina. Au moins, je vais vous dire, au moins il a pas chanté du piaf. C'est déjà ça. Allez, petit commentaire, on fait un petit tour de table. Certains attendaient, c'est vrai qu'il y a la rumeur Zinedine Zidane qui a couru toute la journée, et puis à l'arrivée, on a vu Jul.
Mais franchement, moi, quand je vous vois onduler vos petits corps comme ça,
oui,
et qu'on vous passe
petit
un
corps,
peu
je
de
sais pas,
Jul,
mais...
je me dis qu'il faut qu'on en passe plus.
Mais je suis assez client, moi.
En fait, voilà, c'est... Non, moi, et mes enfants aiment bien, j'y connais absolument rien, et c'est pas comme si j'avais étudié tout le parcours de la flamme, et si j'avais regardé toutes les personnes qui étaient honorées. Donc... Pourquoi pas Jul ?
J'ai vu des tweets sur les réseaux sociaux assez haineux. Oui. C'est la honte pour la France. Qu'est-ce qu'il vient faire là ? Il n'a pas sa place. Qui le connaît ? Voilà comment la France rayonne à l'international. Est-ce qu'on peut positiver et se dire que c'était pas une si mauvaise idée ? Ou alors, oui, vous partagez. C'est honteux d'avoir mis ce rappeur.
Touche Fashion Week.
Touche Fashion Week. Ouais, mais ça, c'est plutôt le.
Il est en spermatozoïde, sérieusement.
Oh, Céline, comme vous y allez. C'est la tenue officielle des jeux, hein. Ah, peut-être qu'il a opté pour le petit capuchon sur la tête, en effet, qui n'était pas prévu, mais.
La politique de goût musicaux en France, c'est la deuxième polémique, quand même, qu'on a d'abord avec Amoura.
C'est vrai.
Ensuite, avec Jul. Donc, est-ce qu'il y a une déconnexion entre les générations ? Parce que c'est vrai qu'Aya Nakamura est la plus grande star française à l'étranger, faut l'admettre, qu'on l'aime ou pas, et Jul, c'est le plus grand vendeur de disques. Donc on a l'impression que quand on est boomer, et excusez-moi plutôt de mon âge, c'est vrai qu'on est là un peu déconnecté, mais heureusement que mes filles et que mon fils qui a 6 ans et demi me rappellent que Jul, quand même, c'est leur culture, c'est populaire. Et les Jeux Olympiques, c'est un événement populaire. Donc moi, je trouve ça totalement normal en termes de choix.
Une belle cérémonie tout de même qui a tenu en haleine plus de 150 000 voire 200 000 Marseillais tout au long de la journée. Il y a ce concert d'ailleurs qui est encore en cours, hein, sur le Vieux-Port, avec là encore des figures emblématiques telles Soprano qui font danser la foule, même si apparemment, hein, vu nos confrères de la Provence notamment, il y a eu des petits mouvements de foule. Ça a été compliqué à entamer ce concert, mais on reste un instant sur Jules. Jonathan, juste regardez, tiens avec moi le tweet du Premier ministre. Vous allez me dire si vous le comprenez, le tweet du Premier ministre, parce que là aussi c'est très générationnel. Le J, c'est le S. La flamme est arrivée, que la fête commence. Est-ce que quelqu'un comprend ? Franck, je sais que peut-être vous l'avez. Non ?
Le J, c'est le S.
C'est une référence. C'est une référence à un texte de Jules dans une chanson.
Ah, c'est le sang. C'est le sang.
Le J, c'est Jules. Ouais. C'est le sang. Le S, ouais, c'est le sang. Voilà, c'est la famille, quoi. Ouais, c'est la famille. C'est le
sang. Il y a le geste, en plus, comme ça, le sang de la veine.
Ouais, c'est ça, le sang de la veine, très précisément. Voilà, il fait un peu de jeunisme, Gabriel Attal. En même temps, il n'est pas très vieux. Message envoyé aux jeunes générations. Les jeunes, ça doit être intergénérationnel. Vous faites partie des grincheux ou pas avec cette cérémonie du chaudron ?
Je ne fais pas partie des grincheux, bien sûr, sans aucune haine, ni colère, ni esprit de polémique. Bon. N'attendez pas de ma part aucune manifestation d'émotion face à ce que nous avons vu aujourd'hui et face à ce qu'on va être écrasé pendant un mois et demi à partir du 26 juillet.
Vous êtes un grincheux.
Pas le sport.
Vous êtes un grincheux.
Non, je ne veux pas casser l'ambiance.
Mais non, mais vous pouvez casser l'ambiance.
Je ne veux pas vous en dégoûter.
Je ne
veux pas vous en dégoûter, mais
franchement, ça vous a déçu quand vous avez vu Jules.
Je vais laisser s'amuser tout le monde, mais ce sera sans moi. Mais c'est pas grave.
Pourquoi ce sera sans vous ?
Parce que ça ne m'intéresse strictement pas. Et je trouve que toute cette démonstration de kitsch, d'un mauvais goût absolu, que ça commence sur le port de Marseille et que ça continue sur les quais de Seine et puis ensuite en banlieue parisienne et dans quelques territoires outre-marins, franchement, ça ne m'intéresse pas.
C'est d'un point de vue tranché.
Non, mais il n'aime pas le sport.
Oui, vous n'aimez pas les Jeux Olympiques.
Je n'aime pas le sport.
Vous avez déjà suivi des Jeux Olympiques à la télévision comme téléspectateur ou vous êtes juste anti-sport ?
Je ne suis pas anti-sport comme je suis anti-moustique, mais oui. Si vous voulez. Vraiment, ça ne m'intéresse pas.
D'accord. Vous avez le droit. Vous avez le droit. Voilà, il n'y a pas de problème. Karim Abric et Jean-Claude Dacier, on termine ce tour de table.
Deux choses, en fait. Moi, j'ai suivi aujourd'hui justement cette arrivée de la flamme, le spectacle autour. Je voyais quand même, il y avait des Marseillais qui s'étaient déplacés pour voir l'arrivée du BLM. J'ai trouvé que c'était une belle journée. Je me suis dit, enfin, bon, habituellement, c'est sûr, on parle de toutes sortes de sujets, on regarde évidemment ce qui se passe. Aujourd'hui, c'était une journée, disons, plus festive. Alors, tant mieux, parce qu'on n'a pas toujours l'occasion de se réjouir pour toutes sortes de choses. Alors, aujourd'hui, on peut quand même saluer qu'il y avait quelque chose de positif, il y avait quelque chose de beau.
Les jeux doivent s'adresser à tout le monde, voilà, et Jules s'adresse à toute la jeunesse.
Mais je pense que c'était aussi, il y avait ce message quand même de dire, on veut faire un... Donc, pas juste un spectacle, mais on veut faire quelque chose, une fête ou une sorte de rassemblement qui est populaire. Et bon, c'était le message qu'on voulait envoyer. Mais pour ce qui est du choix musical, évidemment, personne, ça ne fait jamais l'unanimité. Je veux juste rappeler.
Il n'a pas chanté. Enfin, il a chanté quelques notes.
C'est-à-dire que, regardez, quand il y a eu justement cette polémique avec Aya Nakamura, maintenant, il y a cette polémique. Est-ce que ça représente la France? Est-ce que ça représente ci? Est-ce que ça représente ça? Est-ce que ça représente le choix du public? Peu importe. Rappelez-vous, quand il y a eu la Coupe du Monde, c'était avec Jean Dujardin. Il y avait le spectacle.
La Coupe du Monde de rugby.
Il y avait ce spectacle avec Jean Dujardin. Là, finalement, il y avait une autre polémique. Cette fois-ci, on accusait le spectacle.
La France-France.
Non, mais il y avait quand même.
Il était raté. On a le droit de rater un spectacle.
Mais au-delà de ça, on peut dire que c'est raté ou pas. On parle de symbole.
C'était la baguette, le béret et le camoret.
Et l'homme déguisé en poule, là. Il y avait un acteur déguisé en poule.
Tous les pays ramènent à leur culture.
Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y avait quand même.
Moi aussi, j'y étais.
Je pense que quand on parle de France-France, il y avait quand même. On débordait aussi de l'autre côté en termes de polémique. Donc, voilà.
Allez, on finit là-dessus. C'est très français de râler.
Que deux rappeurs, Jules, très bien, je préfère même qu'il a été désigné lui plutôt que Zidane, parce que le football aux Jeux Olympiques, c'est quand même quelque chose qui est relativement mineur.
Attendez, Albertville, qui est-ce qui a allumé la vasque olympique?
Oui.
Qui a allumé la vasque olympique à Albertville? Michel Platini.
Je pense en effet que Zidane aura sa place dans les jours qui viennent. Le choix de Jules ne m'a pas gêné du tout, au contraire. Simplement, lui plus Nakamura, ça fait deux rappeurs. Un rappeur plus une rappeuse.
Elle n'est pas rappeuse.
Peut-être beaucoup.
Non, elle n'est pas rappeuse. Elle n'est pas rappeuse. Elle fait de la musique urbaine, mais elle n'est pas rappeuse.
Non seulement de la France et du chef de l'État et de tout le CIO de faire des Jeux Olympiques pour les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont envie d'en faire une fête populaire pour les jeunes. N'oublions pas que Jules, à part les albums, il a des millions de followers sur les réseaux sociaux. Donc il y a des millions de jeunes qui, en même temps qu'il allumait la flamme, sont connectés aux Jeux Olympiques. Et on sait qu'en France, et tu sais parfaitement,
ils vont regarder
la Coupe du Monde de foot, on a commencé à s'exciter en demi-finale. Là, ils ont envie d'exciter les gens dès maintenant.
Et on verra qu'il y a un enjeu politique très fort. Emmanuel Macron était sur place aujourd'hui. Il s'est exprimé au micro aux 20h de TF1 tout à l'heure. On en reparlera tout à l'heure pour voir l'enjeu politique. Est-ce qu'il peut y avoir un effet Coupe du Monde 98, comme ça a été le cas pour Jacques Chirac avec ses Jeux pour Emmanuel Macron à 3 ans de la fin de ce deuxième mandat? On se posera la question un petit peu plus tard, mais voilà ce qu'on pouvait dire. Le J, c'est le S, donc, et le chaudron olympique a été allumé. Il s'appelle Julien, donc, mais Jules, c'est Julien. Je crois qu'il s'appelle ouais, Julien. Jules. Vous dites
JS sont mes initiales.
C'est vrai, le J, c'est le S. Voilà. Merci, Jonathan. Allez, parlons de choses un peu plus graves, un peu plus sérieuses, alors que les rassemblements et blocages se multiplient, notamment à Sciences Po. Vous le suivez régulièrement sur notre antenne. Cette évacuation également qu'on vous remontrera hier soir à la Sorbonne. Hier, un nouveau rassemblement contre Israël avait lieu place de la République. Je voudrais qu'on en parle quelques instants parce qu'on a entendu des slogans, franchement, qui sont inaudibles normalement pour des gens normalement constitués, j'ai envie de dire. Écoutez cela et on va en discuter un instant. Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza. Franck Tapiro, c'est assez sidérant. De plus en plus loin, nous allons dans l'abject.
Non, mais c'est dans la même ligne stratégique que ce que LFI fait depuis le démarrage, c'est l'inversion victimaire. Depuis le 7 octobre, quelques jours après, on a inversé.
Mais là, on est même plus dans la. Là, on est quasiment dans le révisionnisme ou le négationnisme.
Révisionnisme, et il y a le révisionnisme aussi, puisqu'on revoit l'image du sionisme, l'histoire du sionisme, qui est évidemment un projet colonisateur, un projet impérialiste, un projet d'apartheid et de génocide. Et comme cette petite musique commence à s'installer, on essaie de la contrer, bien entendu, parce que c'est non seulement un mensonge, mais une outrance terrible. Ils vont jusqu'au bout, c'est quoi? C'est de dire, les victimes d'hier sont les bourreaux d'aujourd'hui. Donc, avec Meurice qui dit, vous savez, que Netanyahou est un nazi sans prépuce, on va au bout. On dit que maintenant, finalement, Gaza, c'est un camp de concentration, c'est comme Treblinka, etc.
Mais donc, si en fait, ce qui est suggéré, c'est que l'opération de Tsahal dans la bande de Gaza, c'est une sorte de Treblinka, savoir une opération génocide industrielle, une opération d'élimination d'un peuple entier.
Je leur propose de venir, quand ils veulent, avec moi, visiter les camps de concentration, revenir et se replonger dans la vérité historique pour savoir ce que c'était que les camps de concentration, ce que c'était qu'un vrai génocide, que la Shoah. Et ils verront, bien entendu, la disproportion de ce qu'ils avancent. Mais ce qu'ils veulent, c'est pas cela, c'est pas être dans l'histoire, c'est la défense électoraliste, c'est tout. Ils sont sur la même ligne électorale. C'est une stratégie politique depuis le démarrage. Sauf que ils en arrivent à des outrances peut-être jamais atteintes depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.
La lignée du wokisme qui poursuit son chemin, Céline Pina, on déboulonne le récit historique qu'est la Shoah.
Je pense que c'est pire que ça. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont allés tellement loin dans l'abjection qu'aujourd'hui, ils sont pris dans le piège de leurs mensonges. Et donc, ils ne peuvent qu'en rajouter, parce que c'est un peu comme le gars qui pédale et qui ne peut pas s'arrêter, sinon il tombe. Et là, s'ils arrêtent leur inflation victimaire, c'est leur mensonge qui va éclater à leur visage. Et ce dont on va voir, c'est qu'en fait, eux sont les complices des nouveaux nazis. Et non seulement ils sont les complices des nouveaux nazis, mais en plus, ils sont en train d'arracher toutes les protections de personnes qui sont déjà extrêmement attaquées. C'est-à-dire que ces slogans arrivent alors qu'aujourd'hui, rappelons-le quand même, l'antisémitisme explose et que la peur que l'on a, c'est qu'on se retrouve avec des violences qui ne soient pas simplement, j'allais dire, des arrachages des agressions simples. Ce que l'on craint, c'est réellement des passages à l'acte meurtriers.
Ça fait. Moi, je pense aussi à des gens qui ils sont de plus en plus rares, malheureusement, aux gens qui ont survécu à la Shoah et qui voient en 2024 une jeunesse qui scande
mais
des inepties pareilles.
On a les images. Vous avez une image terrible qui montre un bras tatoué d'un vieil homme qui tient le bras d'un enfant et sur le bras de l'enfant, il est marqué 7-10-2024. Toutes ces images-là, en fait, ce qu'ils essaient de faire, c'est de faire en sorte de nier le retour de l'antisémitisme et de le remplacer par une persécution des Palestiniens qui serait en fait la persécution de tous les musulmans, le symbole de la persécution des musulmans. Et autour de cette histoire, on essaie de créer une violence immense contre à la fois les juifs et les blancs. C'est la petite musique qui commence à monter. Cette petite musique, c'est Nassira Guenif qui l'a fait entendre quand elle a affronté le candidat LR devant Sciences Po, où elle l'insulte carrément en lui disant « Mais vous n'avez pas le droit de parler parce que vous êtes un homme, parce que vous êtes un blanc, etc. »
Elle a reproché de faire ce fameux mansplaining.
Oui, et on est vraiment, on est en train de passer, j'allais dire, du samedi au dimanche. Et là, aujourd'hui, c'est le week-end qui est en cause. Donc moi, j'appelle tout le monde à se réveiller et à arrêter de laisser faire ce à quoi on assiste.
La stratégie, c'est de nazifier Israël, nazifier les Juifs. Ça peut passer par des blagues de Guillaume Meurice, ça peut passer par des discours de LFI qui considèrent que tous les Juifs sont d'extrême droite. Il y a une forme de diabolisation permanente quand on sait aussi, et j'en termine là, Jonathan Sixou, je vous laisse me répondre, quand on sait que la Shoah, il y avait ce sondage qui était paru il y a quelques temps, de plus en plus méconnu par une très grande partie de la jeunesse, entre 16 et 24 ans. C'est effrayant parce que ces jeunes, en fait, sont une cible de choix, et on le voit dans ces rassemblements pour tous ces mouvements antisionistes qui organisent ces rassemblements.
J'ai du mal, effectivement, notamment avec cet argument qui nous avait tous marqué il y a quelques mois, ce sondage que vous évoquez, j'ai du mal à donner un tel crédit intellectuel, si je puis dire, à la majorité de ces gens qui sont motivés par l'ignorance, qui sont manipulés du fait même de leur inculture profonde. Et pour beaucoup, je suis convaincu qu'ils ne savent même pas ce que c'est que Treblinka. Il y a quelques mois, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Manuel Bompard qui disait que la bande de Gaza était le ghetto de Varsovie. Lui, je pense qu'il sait ce qu'il dit quand il tient de tels propos.
Je crois que Treblinka, pour le rappeler à nos téléspectateurs, c'est le pire lieu d'extermination des Juifs, juste derrière Auschwitz-Birkenau.
Auschwitz qui se doublait en premier lieu d'un camp de concentration, ce qui n'était absolument pas le cas de Treblinka, qui n'était qu'un camp de la mort. Si vous voulez, ces foules de gens ne sont même pas pro-palestiniens, ils sont anti-israéliens, anti-Israël.
Oui, bien sûr. Et, d'ailleurs, les Iraniens reprennent leurs images.
Mais
donc,
ce mouvement est salué, mais comme les occupants de Sciences Po reçoivent des tweets de soutien de l'ayatollah Khomeini, reçoivent des tweets de soutien du Hamas, vous pourriez vous poser quelques questions quand vous recevez de tels soutiens. Enfin, un dernier mot, et j'en finis par là. S'ils veulent avoir une idée de ce que c'est qu'un génocide, pas besoin, si je puis dire, d'aller dans un camp musée, qu'ils aillent à l'est de la République démocratique du Congo, où depuis 30 ans, un génocide est en cours. À l'est de la République démocratique du Congo, près de 10 millions...
Ça ne les intéresse pas, il n'y a pas de juifs au centre de cette histoire, donc voilà. Ça ne les intéresse pas.
On revient au début de votre question.
Jean-Claude Dacier, comment diviser, fracturer la société? Ça doit aller au-delà de la loi, parce que vous pouvez attaquer ces gens-là en faisant des procès, des plaintes en négationnisme ou révisionnisme, mais ce n'est pas comme ça qu'on change les esprits, et c'est ça qui est plus inquiétant.
Il me rappelait, il y a quelques jours, qu'à Sciences Po, on votait à 70 ou 75% pour Mélenchon. Mmh. Bon, nous avons affaire...
Mais là, on n'est pas à Sciences Po, on est place de la République.
Oui, mais ils étaient combien? Je veux dire, c'est quand même, heureusement, si on veut...
C'est une minorité qui fait du mal.
Carlo Klersfeld, la semaine dernière, sur cette antenne, qui disait, heureusement, et je crois qu'il a raison, que la France n'est pas antisémite. Mmh. La France n'est pas antisémite. On n'est plus dans les années 30. Les années 30, tous les peuples européens ne se sont pas couverts de gloire, loin s'en faut. Là, on a quand même tiré et réfléchi à ce problème et on voit les choses autrement. En revanche, ce qui se passe, c'est que la porosité est très grande entre les événements tragiques du Proche-Orient et un certain nombre de gens qui sont heureusement peu nombreux. On a affaire, chers amis, à une opération politique.
Oui, mais mettez ça en perspective.
Mélenchon, je mets en perspective. En tout cas, c'est mon point de vue.
Non, mais
nous avons une opération politique que, pour le moment, le succès n'est pas, me semble-t-il, affiché. Notre ami Mélenchon, si j'ose dire, est toujours entre 7,5 et 8%. Et il y avait quelques dizaines de gars qui désespérément essaient de bloquer Sciences Po. Quelques centaines à peine qui ont fait la même chose à la Sorbonne.
Alors justement,
pour l'instant, l'opération politique de M. Mélenchon, certes, est un échec. Alors évidemment, il faut bien voir que l'objectif qui est poursuivi, c'est d'essayer de rameuter tout ce qui peut être...
Tout ça pour passer de 6 à 8%.
Si possible, de rameuter le maximum de voix musulmanes ou de gens qui sont mécontents de Macron. Bref, de faire le plein. Ils ne supportent pas Mélenchon
ou de convaincre une jeunesse droguée, une jeunesse qui n'a plus le sens de l'histoire, jeunesse droguée aux réseaux sociaux, qui
joue un jeu plus que dangereux, bon. Plus que dangereux, et je pense qu'il va le payer cher.
Regardez les images hier à la Sorbonne, vous l'évoquiez, Jean-Claude Dacier, évacuation de militants qui a donné lieu au placement en garde à vue d'ailleurs de 86 personnes. Karima, un mot là-dessus. Oui, Jean-Claude a raison, il faut relativiser cet activisme qui ne reflète pas la majorité silencieuse, mais cette minorité, elle fait du mal. Il y a une différence qu'il faut noter entre la liberté d'expression et ces démonstrations de haine qui sont parfois insupportables.
Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, je pense que quand on bascule, il y a des délits aussi, hein, quand vous dépassez ce qui est permis aussi dans la loi. Donc oui, la liberté d'expression, mais si vous faites des appels à la haine, s'il y a de l'antisémitisme, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le pays depuis plusieurs semaines. Mais on dit une minorité, mais je dirais quand même qu'au sein de la jeunesse, que ce soit dans les campus ici, que ce soit en Amérique du Nord,
Canada,
ou ailleurs.
C'est différent en Amérique.
C'est plus massif. Il y a un engagement qui est plus fort.
Moi, je n'ai pas parlé de l'Amérique. J'essaie de comprendre et d'observer ce qui se passe en France.
Je veux revenir quand même donc sur les campus. C'est qu'il y a cet effet d'entraînement. Il y a cet effet quand même de conformisme idéologique dans des universités. Donc oui, il y a une minorité qui est très bruyante, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand même cette emprise même, je dirais, d'une idéologie d'extrême gauche qui nourrit tout ça aussi. Donc moi, je ne pense pas que c'est parce que, oui, il y a quelques dizaines peut-être qu'on a vu comme ça.
Mais à quel moment ils pensent, ces gens-là, qu'ils vont influer sur ce qui se passe à Gaza? À quel moment peuvent-ils imaginer qu'ils vont avoir une influence sur quoi que ce soit?
Leur objectif n'est pas là.
Ils font de la politique, bien sûr.
Objectif, et il est intéressant, et en fait, contrairement à ce qu'on pense, ils n'ont pas tant échoué que ça. En tout cas, sur la prise d'assaut des facultés et des universités, pourquoi est-ce qu'il est important de contrôler l'université? C'est la fabrique de la représentation. Et c'est aussi ce qu'ils disent qui est légitime et ce qui ne l'est pas. D'où le fait que quand vous pouvez arguer de votre statut de professeur d'université, même quand vous racontez une bêtise plus grosse que vous, la personne en face va avoir du mal à vous attaquer. Donc c'est de la légitimation. Et à ce point de vue-là, ils ont réussi, eux, à se légitimer eux-mêmes. Vous avez des profs qui sont aujourd'hui aussi crétins que leurs élèves, si c'était possible. Et pourquoi est-ce qu'on a un problème? Moi, j'étais peut-être pas aussi débile qu'eux, mais à un moment donné, j'ai eu 20 ans.
T'es en forme, Céline. La dernière fois que je vous ai vu, vous n'aviez plus de voix. Et là, vous l'avez retrouvée. C'est le moins qu'on puisse dire.
Sincèrement, j'étais sectaire. J'étais pas le couteau le plus affûté du tiroir. Mm-hmm. Qu'est-ce que je l'ouvrais? Mais en face de moi, j'avais des adultes. J'avais des professeurs
qui vous remettaient un petit peu en place.
Oui, j'avais des gens et ils me disaient ce qu'ils pensaient. Ils me disaient qu'ils trouvaient que je disais des âneries. Ils me remettaient à ma place. Ils me mettaient des claques.
Au sens figuré.
Exactement. Eh bien, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a aidé à ne pas sombrer. Là, le problème, c'est qu'on a l'impression que ces gamins sont en plus livrés à eux-mêmes, que personne n'ose mettre de limites, que personne n'ose les rappeler à l'ordre, et ça aussi.
Il y a une voix qu'on entend particulièrement beaucoup et qui fait valoir la haine qu'elle ressent, notamment contre l'État d'Israël, qu'elle qualifie à l'envi de génocidaire. C'est Madame Rima Hassan sur la liste LFI, vous le savez, pour les européennes. J'ai deux tweets de Rima Hassan à vous montrer ce soir. D'abord, elle répond à Madame la ministre de l'enseignement supérieur. Avec Sylvie Retailleau, s'il vous plaît, les amis. On va voir le suivant ensuite. Plusieurs agents publics, donc Sylvie Retailleau qui parle de la Sorbonne, ont été violemment bousculés, pris à partie par un groupe d'individus qui espèrent occuper la Sorbonne. Ces violences sont intolérables. Le rectorat va porter plainte. Je le redis, nous privilégions toujours le dialogue. Nous n'accepterons jamais les blocages. L'escalade est une stratégie inutile. Honte à ceux qui font le pari de l'instrumentalisation. Et vous voyez que Rima Hassan répond, les étudiants, en écriture exclusive, devraient occuper votre ministère. Oui, voilà la surenchère. On souffle constamment sur sur les braises. Et puis Rima Hassan, puisqu'on l'a aperçu, je vais le montrer également, qui compare, qui franchit un pas de plus. On va peut voir les infographies, les amis. Voilà, ce que fait Israël à la Palestine n'est pas très différent de ce que faisait, de ce que la France faisait à l'Algérie. Évidemment, vous allez réagir. Regardez juste la réponse de Éric Ciotti qui s'est indigné de cette communication aujourd'hui. Le président de LR, ah, ça marche pas. En tout cas, il trouve ça honteux et ça lui donne la nausée au patron de LR. LFI a colonisé les esprits. On parle de l'extrémiste de Netanyahou. On entend jamais parler de la barbarie du Hamas. Et cette façon de comparer ce qui s'est passé en Algérie, en fait, elle dit quoi, Rima Hassan? Que la France a commis un génocide en Algérie?
Oui, elle dit n'importe quoi. C'est pas grave. Elle se sert, encore une fois, d'un certain nombre d'objectifs politiques, toujours dans le même but. Essayer d'aller rechercher des voix et de peser sur la politique française. C'est le seul objectif. Je maintiens que quand on... À un moment ou un autre, il faut bien faire une mesure quantitative. Il n'y a personne dans les rues. Vous avez vu un mouvement de masse?
Non.
Alors, calmons-nous, ne nous trompons pas d'objectif. C'est une opération politique qui a le plus grand mal à prendre, et j'espère ne pas être démenti par les faits la semaine prochaine, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Pour l'instant, je ne suis pas sûr que l'opération de M. Mélenchon soit si bénéfique que cela.
Mais pour l'instant, Rima Hassan...
Sur ce tweet qui compare l'Algérie et...
Non, mais c'est de la com, et je peux vous en parler en tant que communicant, parce vous savez, on est un peu meilleurs ennemis.
On va chercher les ressentiments, les vieux traumatismes pour aller chercher des électeurs.
En fait, c'est très simple. On instrumentalise comment? On fait encore des comparaisons. Tout à l'heure, on a entendu Treblinka, Gaza. Ouais. Là, elle dit pareil, le conflit à Gaza, c'est le même que l'Algérie. Pourquoi? Parce qu'elle se dit, je vais parler aux petits-fils, aux arrière-petits-fils de ceux qui ont connu la guerre d'Algérie pour leur montrer que, avec justement ce ressentiment qu'on essaie de montrer, vous savez, avec cette urgence de dire que malheureusement, ce qui s'est passé par le passé, nous en sommes totalement responsables et coupables. Donc elle appuie là-dessus. Encore une fois, des fins électorales.
C'est uniquement des musulmans radicaux.
Et quelle est l'idée derrière ce tweet? Au-delà, non, mais qu'est-ce que les gens qui adhèrent là-dedans comprennent, qu'est-ce qu'elle veut faire comprendre au-delà de la com? Mais l'idée, c'est de dire que la Palestine entière est colonisée, qu'Israël n'a pas lieu d'exister, qu'Israël est un État génocidaire, que la France a fait un génocide en Algérie. Non, mais...
Et elle dit, c'est une question de temps, n'oubliez pas, elle le dit depuis le début. Donc elle dit, inévitablement, ça met du temps à l'Algérie de retrouver son indépendance. Vous allez voir, la Palestine va retrouver son indépendance. Comme si, avant Israël, bien entendu, il y avait un État palestinien avec un gouvernement. Etc. Donc ce petit récit, ce mensonge, cette mythomanie qui est son moteur, elle le fait dans tout, sur ses origines, surtout. Donc, ça fonctionne parce qu'on lui donne la parole. C'est vrai que quand elle fait une outrance, la preuve, on en parle sur les plateaux. Donc, on remet une pièce dans la machine. C'est son moteur. Moi, je rêverais de faire un débat avec elle. Elle refuse, à part insulter sur les réseaux sociaux ou essayer de bloquer ses ennemis. Pourquoi elle veut pas? Elle préfère se retrouver face à des journalistes, pensant que ce ne sera pas des vrais débats, parce qu'avec un contradicteur en face, elle ne pourra pas dire que de la rivière à la mer, c'est l'égalité de droit entre Palestiniens et Israéliens, mais c'est insoutenable tellement c'est un mensonge. Dire qu'il y a un génocide en Israël, alors que même la Cour de justice internationale a juste dit qu'il n'y avait pas de génocide, mais elle a demandé à Israël de prévenir les risques de génocide. Et il y en a plein d'autres. Donc on voit bien qu'elle est dans sa mythomanie, elle va continuer jusqu'au bout. Elle se sert de son physique et de son sourire désarmant pour faire passer les choses. Regardez, c'est une technique très bien rodée.
Elle fait de la politique.
De la com. Oui, point. Politique, absolument.
Jonathan Capa et Karima aussi. Jonathan, des raccourcis, des comparaisons qui n'ont plus aucun sens, si ce n'est celui de diviser.
Oui, mais de toute façon, diviser est le moindre mal que souhaite la France insoumise aux Français en général. Donc, c'est bien au-delà que souhaite aller Rima Hassan. Je peux penser, en ayant un peu de mémoire, que Emmanuel Macron, en 2017, disait que la France, en colonisant l'Algérie, avait commis un crime contre l'humanité. Pardon d'en avoir un peu de mémoire. Parce que c'est politique, on peut en vouloir précisément à nos politiques de pas tant bouger depuis un certain temps. À part François-Xavier Bellamy, tête de liste LR, qui est allé avec un sérieux courage et physique et
intellectuel
et panache rue Saint-Guillaume devant les excités de Sciences Po.
Naissance politique pour Xavier Bellamy, François-Xavier Bellamy.
Mais qui d'autre, à part les mélenchonistes, qui est allé rue Saint-Guillaume?
Personne.
C'est assez étonnant.
Si, il y a le député Renaissance, M. Ballard.
Alors, autant pour moi.
Non, monsieur, si.
Mais, en tout cas.
Non, pas monsieur Ballard, mais monsieur Maillard.
Est-ce que madame Hayet a daigné s'y déplacer? Absolument pas. Regardez la faiblesse du tweet de Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur. Il est indigne. Et parallèlement à cela, n'oublions pas également de pointer la responsabilité, parce que la responsabilité est énorme, non pas de ces crétins, mais de la direction et de la Sorbonne et de Sciences Po, qui s'illustre par un silence plus que complice.
Karima.
Non, je pense que pour Rima Hassan, elle est vraiment avec la stratégie de LFI, la stratégie de bordélisation, comme on appelait la stratégie du chaos, et la stratégie aussi, bon, tout simplement d'attirer l'attention, et ça fonctionne très bien parce que c'est elle qui est devenue finalement symboliquement la tête de liste aux européennes pour ce parti. Et c'est pas la première fois, donc elle y va toujours avec des grandes déclarations outrancières. Bon, elle a parlé la dernière fois, je pense que c'était à la télé, à BFM, mais elle disait, je pense que c'était Israël, c'était pire que la Russie. Oui. Donc, ensuite, il y a cette histoire en lien avec la colonisation pour toujours mettre justement cet aspect de victimisation, raviver les plaies. Cela étant dit, moi, j'ai pas de problème que les gens soutiennent les civils palestiniens, s'inquiètent de ce qui se passe à Gaza en ce moment. Je pense qu'on peut avoir un questionnement aussi là-dessus, sauf qu'on voit qu'il y a une instrumentalisation de tout ça. Ce n'est plus la question, ce n'est plus de se préoccuper des civils. On est effectivement dans cette haine, mais il faut... Je sais que tout à l'heure, vous disiez que c'est une minorité, il n'y a pas tant de gens.
Ah, pour l'instant, oui, il
est souhaitant que ça continue. Mais moi, je ne suis pas d'accord, en fait, que ça n'a pas le même...
Sur les chiffres, hein?
Oui, je suis d'accord qu'il n'y a pas beaucoup de monde, mais je ne suis pas d'accord sur le fait que ça n'a pas d'impact. Ça a un impact un peu partout. Je veux dire, les pays réagissent en ce moment. Il y a les États-Unis qui ont décidé de suspendre...
Encore une fois, moi, je mets les États-Unis,
Non, mais de suspendre...
Regardez le score de Mélenchon, il n'a pas bougé.
Je peux finir la phrase de suspendre quand même un envoi de munitions, de bombes à Israël. Il y a le Canada qui s'est prononcé en disant il n'y a pas de... Il ne faut pas aller...
La position américaine est différente. La position américaine est très...
Pour la discussion, vous allez voir dans... Karima, vous allez voir dans un instant également que Mathilde Panot est toujours plus loin, hein, veut interdire Israël de participer au concours de l'Eurovision. On en dira un petit mot dans un instant. Franck, juste avant qu'on envoie d'ailleurs le rappel de l'actualité avec Barbara Durand, je voudrais qu'on voit cette affiche, parce que cette marche, que vous, ce rassemblement que vous organisez dimanche, je voulais que vous en disiez un petit mot en 30 secondes, une façon peut-être justement d'amener un petit peu de paix et de décence dans ce débat pour un rassemblement dimanche place de la République. Donc.
Oui, surtout permettre à la majorité silencieuse de s'exprimer, parce que la majorité silencieuse, on peut plus. Elle n'en peut plus dans les écoles, elle n'en peut plus les parents d'élèves, les professeurs. On voit une minorité, on l'a dit, qu'il y a un bruit majoritaire. Mais la majorité, elle se tait pour l'instant. On l'a dit que c'était, voilà, ça suffisait. On voulait faire un rassemblement citoyens, avec un ensemble de collectifs qui justement veulent, et on l'a dit, libérer l'école de la haine. Et ça, c'est très important. Donc, il y aura des professeurs, des étudiants qui vont exprimer d'abord leur ressentiment aujourd'hui, mais surtout donner des solutions. Donc, on espère qu'ils viendront nombreux. Et c'est à la place de la République, c'est très important. Parce qu'on a vu tout à l'heure une manifestation, justement, avec des cris de haine sur Treblinka, place de la République. Il est temps que la République reprenne sa place.
Et bravo pour l'initiative. On tenait à relayer ça auprès de nos téléspectateurs. Merci à vous, Franck Tapiro. 23h pile, une petite minute pour rappeler l'essentiel de l'actualité. Puis, on dit un petit mot, donc, sur Mathilde Panot qui veut interdire Israël d'Eurovision. Bien sûr, c'est comme ça que tout va s'arranger.
Emmanuel Macron doit se faire soigner, ce sont les mots de Matteo Salvini, le vice-chef du gouvernement italien. Il juge dangereux le président français. Il y a quelques jours encore, Emmanuel Macron a évoqué la possibilité d'envoyer des troupes occidentales en Ukraine. À Rafah, l'armée israélienne poursuit son offensive. Des frappes aériennes et des opérations au sol ciblées ont été menées ce mercredi. Hier, l'armée a déployé des chars et pris le contrôle du passage frontalier avec l'Égypte. En parallèle, au Caire, des négociations en vue d'une trêve se poursuivent. Enfin, des croix gammées et des inscriptions homophobes tracées sur un monument aux morts. Les faits ont eu lieu dans la nuit de mardi à mercredi dans la commune d'Escopon. C'est près de Valenciennes. La mairie a annoncé déposer plainte.
Merci Barbara, rendez-vous dans 30 minutes. La chef du groupe Insoumis à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot, a donc appelé aujourd'hui à exclure Israël du concours 2024 de l'Eurovision afin d'obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Tout à fait logique. On va voir son tweet. Des voix du monde entier s'élèvent pour exiger le cessez-le-feu. Pourtant, l'Eurovision reste silencieux au nom de la paix, de l'amour, de la culture. Pour la culture que nous, députés de pays européens, eurodéputés, artistes, citoyens, appelons à exclure Israël de l'Eurovision. Nous ne laisserons pas la Palestine disparaître. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Céline Pina?
Oh là là.
Je vous mets en difficulté. Ce que je disais, on fait tout pour fracturer la société. Tout ça pourquoi? Pour passer de 6 à 8% dans les sondages.
En fait, la seule chose qui est extrêmement étonnante dans toute cette histoire, c'est pas finalement LFI. LFI continue d'exploiter leur filon. Et puis, comme personne ne leur met de limite, c'est comme les enfants. Vous savez, je fais un pas, personne ne me dit d'arrêter. J'en fais un deuxième, un troisième. Ils sont en train de courir. La seule question, c'est où est le pouvoir? Où est le gouvernement? C'est-à-dire que c'est la même chose qu'avec Sciences Po. Vous avez une dizaine de gamins qui réussissent à éteindre complètement toute parole de la part de la direction d'une école prestigieuse, qui réussissent à occuper tout le terrain. Et en face, vous n'avez aucune réaction.
Ah si, la police est évacuée quand même.
Oui,
systématiquement.
Sauf que normalement.
C'est ça qui m'intéresse, c'est que systématiquement, le Premier ministre, me semble-t-il, donne l'ordre d'évacuer.
On n'en a pas besoin. Normalement, on devrait avoir une direction de l'école qui explique que tous les gens qui sont dans la rue, si jamais ils appartiennent bien à Sciences Po, sont virés immédiatement. Ça prend lieu tout de suite. Et le problème, c'est qu'on peut avoir un gouvernement qui saute comme un cabri en disant. Tu casses, tu répares, moi je vais rétablir l'autorité. Là, bon sang, c'est facile, il n'y a personne. Ils ont un boulevard pour le faire, ils ne prennent que très peu de risques. Et il ne se passe rien, en pleine campagne. Je ne comprends pas.
Pourquoi est-ce que personne n'essaie... Enfin, en l'occurrence, votre marche va tenter d'apaiser les choses dimanche, mais j'ai l'impression que en tout cas du côté de la gauche et de l'extrême-gauche, personne n'essaie de donner une perspective pour sortir de ces sentiments sombres, de cette frustration, de cette colère. Plus personne ne semble défendre la solution à deux États qui semble la plus sensée, la plus consensuelle au niveau international. On est dans cette division permanente. Il faut les exclure de là, il faut arrêter les financements des universités israéliennes, pas aller à l'Eurovision, Israël génocide.
C'est devenu l'émissaire absolu. En fait, aujourd'hui, on voit bien la question européenne, la question française, la question mondiale. Pour LFI, il n'y a qu'une cause,
non.
Israël. Pour eux, voilà, c'est Israël qui est responsable de tout. Donc, il est responsable, on l'a vu tout à l'heure, de génocide, responsable de l'Eurovision. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'un seul logiciel. Ils n'ont qu'une seule stratégie. Et regardez, c'est bien organisé. Chacun a un rôle. Panot se prend pour une experte artistique et parle de l'Eurovision. Parfort Boyard, je suis désolé, c'est comme ça que je l'appelle, va pour bloquer Sciences Po. Chacun a un rôle particulier. Et Rima Hassan, n'oubliez pas, c'est elle qui a détruit la solution à deux États. Avec cet État binational qui est évidemment la traduction de la fin de l'État d'Israël. Donc on le voit bien.
Que ce soit aussi la politique que le gouvernement israélien mène.
La politique d'Israël, ça fait très longtemps que Israël lui-même la condamne et fait des manifestations tous les jours. L'endroit au monde où on critique le plus Netanyahou, c'est Israël. Il n'y a pas une journée sans manifestation, Jean-Claude. Et tu le sais. Mais après, il y a peut-être une raison, je vais amener un peu de légèreté dans le débat, peut-être une raison artistique. Peut-être que Madame Panot a peur d'Israël. Pourquoi ? Israël a gagné 4 fois l'Eurovision. Et la France une fois il y a 50 ans avec Marie Myriam comme un oiseau. Donc peut-être qu'elle veut éliminer un concurrent sérieux face aux chances de la France.
Mais vous êtes sérieux ?
Mais bien entendu, vous vous rendez compte que je donne même un argument artistique, humoristique à ce parti qui n'a ni humour ni intelligence.
Alors, bon, un peu de
Jean-Claude.
Humour, ça c'est vrai.
Ça c'est clair.
Mais honnêtement, accorder tant d'importance à Madame Panot me paraît légèrement excessif.
C'est pour ça que je parlais de Marie Myriam et des chances artistiques.
Avant de changer de sujet, je voudrais qu'on fasse un point sur la situation justement avec l'armée sur place au Proche-Orient, avec l'armée israélienne qui a pris le contrôle d'une partie de la ville de Rafah, ainsi que du point de passage avec l'Égypte. Les négociations sont toujours en cours. On fait un point de situation avec Sarah Fenzari.
La ville de Rafah est toujours sous le coup de bombardements au lendemain du déploiement de chars israéliens et de la réouverture du point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer l'aide humanitaire après 4 jours de fermeture consécutive. Dans le même temps, le Caire accueille des délégations du Hamas, d'Israël, du Qatar et des États-Unis court une reprise des discussions dans l'espoir de trouver prochainement un accord pour la trêve des combats dans la bande de Gaza. Le Hamas a pour le moment accepté une proposition de trêve comprenant 3 phases, chacune d'une durée de 42 jours et incluant un retrait israélien du territoire, un échange d'otages et de prisonniers palestiniens dans le but d'un cessez-le-feu permanent. Israël a refusé et répondu que la proposition était loin de ses exigences et a répété son opposition à un cessez-le-feu permanent tant qu'il n'aura pas vaincu le Hamas. Depuis Tel Aviv, Benjamin Netanyahou a donné pour consigne de continuer à se montrer ferme sur les conditions nécessaires à la libération des otages et essentielles à la sécurité d'Israël. De l'autre côté, d'après un membre du Hamas, cela pourrait être la dernière chance pour Israël de récupérer les captifs vivants. Depuis lundi, l'armée israélienne lance des appels aux habitants des quartiers est de Rafah à une nouvelle fois évacuer la zone.
Jonathan Sixou, est-ce que cette offensive sur Rafah va relancer, nourrir encore de nouvelles mobilisations, les blocus dans les universités? Parce que le problème, c'est que plus il y a de victimes civiles, plus le Hamas est fort. C'est aussi la vérité.
Évidemment. La situation sur le terrain est franchement dramatique pour ces populations civiles. On ne cesse de le répéter à juste titre. En revanche, on se doit, sans en connaître ni les tenants ni les aboutissants, de s'interroger néanmoins sur la stratégie militaire adoptée par le gouvernement israélien ou par l'armée israélienne, indépendamment du service du personnel politique. Là où nos amis de LFI pourraient peut-être faire avancer le débat, s'ils en étaient capables, ce serait de se poser la question pour quelle raison le voisin égyptien n'ouvre pas ses frontières à ces centaines de milliers de Palestiniens. Pourquoi les Palestiniens sont des parias au sein même du monde musulman? Ça, c'est une question qui est aussi vieille. Les Palestiniens sont les parias
depuis toujours
de cette région. Oui. Ils sont plus d'un million en Jordanie. Historiquement, mais l'Égypte refuse d'ouvrir sa frontière pour accueillir notamment ces centaines de milliers de personnes.
Il n'arrive déjà pas à nourrir sa population. Alors évidemment,
l'Égypte pourrait, avec l'aide américaine et internationale,
il y a une différence entre les gouvernements.
Pas tous en même temps, les amis.
Je ne dis pas que c'est ça.
Ils n'ont pas nécessairement envie de partir non plus de chez eux. Il y a ça aussi.
Évidemment, mais quand il faut bombarder une zone habitée dans tous les conflits sur Terre, on évacue les populations civiles. La guerre de Gaza a ceci de dramatique pour ces populations civiles, c'est qu'on ne peut pas évacuer les populations civiles. Aller au nord, aller au sud, parce qu'on bombarde le nord, on bombarde le sud, c'est infaisable. Aucune
et aucun pays arabe alentour n'accepte d'accueillir ces réfugiés.
En fait, c'est la triple peine.
Franck, dernier mot là-dessus.
C'est la triple peine pour les Gazaouis aujourd'hui, parce que d'abord, ils ont subi le Hamas qu'ils ont élu, il faut le dire démocratiquement, mais ils le subissent depuis des années.
Il y a longtemps.
Il y a 20 ans.
Oui, 2007. C'est pas très très longtemps. Donc, ils ont soutenu l'action du Hamas, n'oublions pas.
Oui.
Et aujourd'hui en Cisjordanie, 77% des gens estiment que le Hamas est totalement légitime. Donc il faut dire aussi la vérité. Première peine. Deuxième peine, évidemment, c'est une guerre. C'est une guerre et une guerre normale, une guerre de riposte. Et troisièmement, c'est l'inaction totale de tous les pays arabes. Donc c'est vrai que c'est une triple peine pour les Gazaouis, mais encore une fois, à chaque fois qu'on parle de Rafah bombardée, la trêve s'éloigne-t-elle, il y a quand même une question qu'on oublie, comme le sujet d'avant avec Madame Panot qui demande, vous savez, le cessez-le-feu, on oublie quand même une donnée incroyable. Où sont les otages? Qui parle des otages? C'est une donnée qui a disparu de tous les discours, de tous les projets de paix,
d'arrêt des bombardements. De la République, on ne sait pas.
Non, on ne sait pas, il n'y a pas d'otages pour eux. C'est une manipulation, ils disent que c'est de la propagande israélienne. Donc, revenons aux fondamentaux, revenons aux data. C'est vrai que, malheureusement, cette population gazaoui est prise dans un étau et les otages ont disparu.
C'est que allez, dernier mot, je voudrais qu'on parle du mythe.
Important, qui durera ce qui durera, c'est la position américaine, qui pour la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire des États-Unis, a refusé de livrer un certain nombre d'armes.
Elle freine.
À mon avis, ça ne durera pas.
Elle freine.
Oui, enfin, pour l'instant, les armes sont toujours aux États-Unis. Oui, il se passe des choses importantes.
L'offensive de Rafah inquiète énormément Washington. Et les signaux pour empêcher cette offensive ont été envoyés à nombreuses reprises.
Donc il n'y aura pas, je pense, de grands bombardements sur Rafah.
On avance.
Si on parle de la différence entre les gouvernements, je pense que réellement, l'opinion occidentale, elle a fait son choix.
Bien sûr.
Et son choix, il est du côté des Israéliens parce qu'elle sait très bien que derrière, c'est elle qui est visée.
Évidemment.
Bon. Ici, en France, retour à l'actualité nationale, ou pas d'ailleurs, puisque c'est le scrutin européen hein, qu'on va évoquer en état, un mois pile, enfin un mois et un jour, puisque ce sera le 9 juin prochain. Jordan Bardella, pendant ce temps, le président du Rassemblement National, tête de liste de son parti, s'est adressé au clan populaire ces derniers jours, notamment avec un déplacement de 48 heures en Moselle, un électorat qui pourrait lui permettre d'atteindre un score historique le 9 juin, sachant que la liste RN fait course seule en tête hein, pour le moment. Thomas Bonnet l'a suivi en Moselle aujourd'hui. Écoutez.
En déplacement de deux jours en Moselle, Jordan Bardella a voulu parler à cette France du déclassement, à ses électeurs qui ont parfois eu le cœur à gauche, pour reprendre sa formule. Illustration avec une visite dans la centrale à charbon de Saint-Avold, centrale qui avait fermé en 2022, puis qui a rouvert la même année pour faire face au risque de blackout électrique. Le même jour, Jordan Bardella a tenu une réunion publique, toujours dans la commune de Saint-Avold. Il s'est exprimé devant plus de 4000 personnes, selon les organisateurs, et a pu compter sur le soutien inattendu de Marine Le Pen, apparition surprise de l'ancienne candidate à l'élection présidentielle. Tous les deux ont visé très directement le camp présidentiel. Jordan Bardella revenant longuement sur le débat qu'il a opposé la semaine dernière à Valérie Ayé. D'ailleurs, le candidat pour le Rassemblement National aux prochaines élections européennes pointe directement la responsabilité du gouvernement. Il se réjouit d'une certaine manière que Gabriel Attal ait décidé de s'impliquer davantage, notamment avec un débat qui va opposer les deux hommes le 23 mai prochain. Voilà qui engage sa responsabilité dans le score du camp présidentiel, dit en substance Jordan Bardella, qui se montre aussi particulièrement prudent sur les sondages qui le donnent largement en tête. Il redoute une abstention qui pourrait lui être préjudiciable.
Jonathan Sixou, un premier commentaire, déplacement pour se rapprocher donc de ce que certains appellent la France des oubliés, la France périphérique, la France des gilets jaunes.
Le déplacement d'aujourd'hui, de ces 48 heures, dernières 48 heures pour Jordan Bardella n'est pas, me semble-t-il, un déplacement à haut risque, dans la mesure où le RN a d'ores et déjà réussi à capter une grande partie de cet électorat populaire, de cet électorat anciennement socialiste, voire communiste. Et me semble-t-il aussi, ce qui a été une super com sur le dos d'une pauvre personne, ça a été ces derniers jours la mésaventure de cette colombe, cette femme bénévole au Resto du Cœur, qui, après avoir ému à juste titre, je pense, une grande partie de la France, a été réintégrée au Resto du Cœur, alors qu'elle affichait dans un reportage sur une autre chaîne son soutien, du moins son espoir.
On évoque beaucoup cette affaire Colombe.
Dans les propos de campagne du Rassemblement National. Donc, si vous voulez, ce déplacement dans cette région, pour quelque peu sinistrée à bien des égards, s'inscrit parfaitement dans une stratégie qui s'avère être, année après année, une stratégie gagnante pour le parti de Marine Le Pen.
Et il y a longtemps.
Jean-Claude, on a beaucoup évoqué, c'est vrai, c'est
qu'une bonne partie de la gauche et les communistes ont abandonné leur parti.
Jean-Claude Dacier,
par grappe tout entière.
On a beaucoup évoqué cette affaire de Colombe, là, que Jonathan a évoqué lui aussi il y a un instant. Cette dame, donc en situation précaire, est pourtant bénévole au Resto du Cœur, stigmatisée parce que vue donc à un meeting du RN. Cette affaire, il semble que ce soit tout sauf une anecdote.
Écoute, je sais pas, on verra ce que politique.
Parce que le RN aujourd'hui est le seul à avoir un discours qui est audible, qui est compris par la France populaire, la France qui
souffre. Je sais aussi ce que coûtent les aides sociales différentes dans ce pays, elles sont considérables. Donc on peut parler de tout ce qu'on voudra en France, sauf que le pays est égoïste et ne fait pas attention à ceux qui sont en difficulté. C'est 700 milliards par an, y compris les retraites. Ça fait beaucoup d'argent. Donc je crois qu'il faut être un peu nuancé dans l'approche que nous avons. Il y a des cas graves, il y a des malheureux. Il faut, à mon avis, justement, le problème, il est là, c'est qu'on ne cible pas assez.
Mais est-ce que seul le RN parle à ces gens-là aujourd'hui?
Oui, je crois qu'il est, parmi ceux en tout cas qui leur parlent prioritairement et les résultats sont là.
Mais quelle raison? Il a un programme social qui est absolument pas finançable.
Non,
en
il est.
C'est la poudre aux yeux.
Non, mais en fait, moi, ça me fait rigoler. Il faut voir comment ils sont construits, les programmes dans un parti. Vous pensez réellement que aucun.
C'est-à-dire, il faut voir comment ils sont construits.
C'est des négociations. Ce sont des négociations internes. Oui. Vous avez différents courants et à la fin, il faut que tout le monde retrouve ses œufs. Donc vous mettez n'importe quoi.
Il y a différents courants en RN.
Absolument rien à faire parce que personne ne lit les programmes et qu'à la fin, la cristallisation politique va se faire autour de deux, trois thématiques. Et c'est ça qui compte. Donc aujourd'hui, par exemple, qu'est-ce qui est intéressant dans ce qu'a fait Jordan Bardella, qui, n'oublions pas, est un enfant du numérique. Donc lui, il pense non seulement à ce qu'il fait, mais à la façon dont ça va être retransmis. Et là, vous avez une bordélisation maximale à Paris. Vous avez la LFI qu'on montre éructant, recouvert de kéfiers, cachant son visage, ce qui aussi est quelque chose de très particulier dans notre pays.
Et enfin, je précise juste qu'on ne sait pas si les différents militants sont adhérents à LFI. Hein.
Après, on va essayer
de relativiser un tout petit peu, mais bon.
Oui, mais bon, ou alors vous avez ce malheureux Louis Boyard qui franchement fait un effet assez répulsif. Et vous avez un jeune homme qui va arriver, qui va aller voir des ouvriers sur fond d'usine, désaffectés peut-être, mais sur fond d'usine quand même, qui va apparaître comme la France d'avant, la France qui porte son écharpe, la France qui se déplace avec des visages qu'on connaît, qu'on a tous vus, qui sont les visages de notre entourage. Et tout de suite, il installe en fait une forme de conservatisme bontain et pas du tout quelque chose de révolutionnaire. Or, aujourd'hui, les Français ont peur du changement. Ils sont littéralement têtés.
Et les autres partis ont honte de parler à cette France ?
Oui. Non, enfin, ils ne la connaissent pas. Ils ne savent pas comment aller la voir. Macron, il ne la connaît pas. Il ne l'a jamais vue, cette France-là. Mais, il ne sait pas quoi lui dire.
Mais parlons de la gauche.
Franck et Karima.
On a parlé tout à l'heure. Pourquoi LFI va dans une impasse, même, mais déjà dans le mur, parce qu'en fait, c'était son public. Le parti, ce qu'on appelle ces gens populaires, ces gens de cette classe, vous savez, d'ouvriers, ce qu'on appelle aujourd'hui les oubliés. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été oubliés par la gauche, qui les a abandonnés et mis dans les bras du Rassemblement National. Et on voit la différence, c'est quoi ? Expliquez-moi, et moi j'attends toujours de voir Erima Hassan et, comment s'appelle, Madame Aubry, nous expliquer Manon le Aubry. Rapport entre un kéfier palestinien et la guerre de Gaza et les élections européennes. J'attends une thèse, une explication, un indice qui va me montrer le rapport, vous savez, l'intelligence entre les deux. C'est un prétexte électoral, mais pendant ce temps-là, on a le RN qui va sur les anciennes terres de la gauche, non pas pour braconner, mais pour se servir. C'est totalement différent. On a abandonné cette classe populaire à l'extrême droite. Donc il ne faut pas s'étonner. Mais bien sûr.
Ben oui, on est évidemment abandonné, mais ils ont regardé qui leur promettait tout et le contraire de tout. Ils sont allés au Rassemblement national. Et s'il a un problème, Bardella, nul ne doute que Bardella aura un très beau score le 9 juin au soir. Oui. Nul n'en doute. Simplement, il a un problème aujourd'hui, c'est de faire attention aux abstentions. Et puis s'il peut draguer quelques voix supplémentaires dans l'électorat de droite, électorat républicain et autres, là oui, les gens de gauche déçus par l'accumulation des problèmes qu'ils ont connus depuis 20 ans ou 30 ans, ils les ont déjà. C'est pas un hasard si Marine Le Pen fait 42% des voix.
Oui, et les partis, en fait, ça montre bien pourquoi certains partis traditionnels ont vraiment perdu la cote. Si on regarde, par exemple, les socialistes, même les républicains qui essaient tant bien que mal, ils se sont fait damer le pion par d'autres partis. Mais une partie de la gauche, on pourrait dire aujourd'hui de la gauche radicale, son combat, c'est quoi? C'est sur les questions, entre guillemets, dites morales, sociales. Ils sont occupés, justement, à s'occuper de l'écriture inclusive, de toutes les questions liées au wokisme, à la décolonisation même mentale des choses. Hein. C'est un peu ça. Est-ce qu'aujourd'hui, si vous êtes blanc occidental, eh bien là, vous faites partie des oppresseurs et eux se sont intéressés à ce qu'ils jugent comme étant les opprimés, les personnes dites, je dis bien les personnes dites racisées, les minorités. Donc finalement, les classes populaires, les classes ouvrières, on a un peu fermé les yeux et il y a eu finalement une sorte de vide. Hein, et finalement, cet électorat s'est cherché en fait d'autres voies pour les représenter. On l'a vu aussi aux États-Unis, je pourrais faire le parallèle, c'est pas juste en France, mais on le voit manifestement très très bien en ce moment.
Et Jordan Bardella est celui qui additionne toutes les colères en ce moment. Tiens, un dernier mot d'Europe, je ne sais pas si vous avez vu passer ce sondage chez nos confrères du Figaro aujourd'hui, très intéressant pour voir ce que pense et l'imprégnation qu'a l'Europe sur les, je sais pas si ça se dit, sur les Français en tout cas. À l'heure où la Macronie ne cesse d'évoquer cette souveraineté européenne, les Français se disent majoritairement, regardez, à 91%, plus patriotes français qu'européens, selon ce sondage Odoxa pour le Figaro. 91% se sentent en priorité français, 8% en priorité européen, un sentiment de priorité nationale largement majoritaire au sein de tous les partis. Un petit tour de table là-dessus, enfin un ou deux commentaires, parce que je voudrais vous montrer une autre partie de ce sondage qui mérite également un petit mot. Jonathan, oui.
L'autre partie, c'est sur les écolos, non ?
Non, c'est sur ceux qui iraient à la guerre pour la France ou pour l'Europe.
Ah, d'accord.
J'ai trouvé ça amusant. Enfin, amusant. En tout cas, ça mérite d'être commenté un instant.
Ça montre que ça confirme la réelle déconnexion et profonde déconnexion d'entre le président de la République et la majorité des Français. On a un président à l'offensive pour une hyperfédéralisation de l'Union européenne, et ces chiffres-là ne laissent guère de doute quant à penser que les Français pensent réellement en leur fort intérieur l'absolu contraire. Et on voit encore une fois en début de semaine, quand il reçoit le président chinois, c'est cornaqué par la présidente de la Commission, et ce n'est pas en tant que président
incroyable,
de la République.
Ça.
Ce sont des images qui ont choqué tout le monde, et que nous ayons ces chiffres-là deux jours après la visite du président chinois témoigne.
C'est ça que vous vouliez voir, vous, qu'il n'y a que chez les écolos qu'il y a une petite tendance un peu plus européenne, voire européiste, mais ça reste majoritaire à 68%.
Ces chiffres montrent à un échec absolu. C'est que ça fait 50 ans qu'on a construit une Europe, certes, politique et
qu'elle n'existe toujours pas.
Mais qu'on a oublié le projet humain.
C'est ça.
Une preuve, on va faire un tour de table pour les Européens. Est-ce qu'une fois dans votre vie, vous êtes qualifié en tant qu'Européen, quelque part, quand vous êtes allé en voyage dans le monde? Une fois, alors qu'on a pourtant sur son passeport l'Union Européenne, etc. Jamais on est français.
Il n'y a que certains Américains qui pensent que l'Europe est un pays.
Absolument. Mais nous, Européens, on est Français. Et même, j'ai jamais entendu un Italien dire bonjour, je suis Européen. On ne se qualifie pas comme Européen parce que on n'a pas pensé le projet européen. Qu'est-ce qui nous réunit?
C'est pas ça.
Qu'est-ce qui nous réunit?
Siècles d'histoire dans chacun de nos pays.
Bien sûr.
Et que ce n'est pas simple. On ne parle pas la même langue, cher ami. On n'a pas la même politique fiscale. Je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas le répéter. Où est la souveraineté européenne, tant souhaitée, tant exigée par le président de la République. Je vais vous dire, il y a deux grands sujets qui vont faire la différence, notamment le 9, c'est l'immigration et c'est la sécurité. Vous entendez le président de la République en parler de temps en temps? De temps en temps, c'est le mot, de temps en temps.
Vous savez que Emmanuel Macron a fait un petit message sur son Instagram pour faire le bilan de ses 7 ans, dont il est très très fier. Ah. On va en parler dans 5 minutes. Juste une dernière infographie, et vous pourrez vous faire plaisir, cher Jean-Claude. Juste la dernière infographie, parce que ça m'a amusé de commenter ce petit graphique-là. En cas de guerre, regardez ça, une personne sur deux, un Français sur deux, serait prêt à s'engager pour défendre la France, alors que seulement 26% des Français seraient prêts à s'engager pour défendre l'Europe. C'est un tout petit peu moins d'un Français sur deux pour la France, 49%. Et 26% pour...
Le plus choquant, c'est à gauche.
Que seulement 50% des Français...
Mais 49%,
c'est incroyable.
Un sur deux. Non, mais
49, c'est terrible.
Ah, vous trouvez ça terrible?
C'est minoritaire. En fait, la majorité des Français...
Pas lu comme ça, voyez.
La majorité des Français ne voudraient pas défendre la France. Non. Il faut le lire comme ça.
Oui, enfin, aller au combat, c'est l'éventualité de...
Mais on me donne...
C'est l'éventualité de mourir sur le champ de bataille, cher Franck Tapion. Ça demande quand même du courage d'aller à la guerre.
Attendez, il faudrait vraiment que la situation soit dégradée.
Vous iriez mourir pour la France, vous?
Mais j'en sais rien. Laissez la guerre venir, peut-être, et on en parlera.
Carina, vous iriez mourir pour la France?
Ce sont des sondages artificiels.
Attention, le chef de l'État en parle avec ce qui se passe en Ukraine.
On va laisser afficher un instant ce petit graphique.
Ce que nous dit ce sondage, quand même, c'est que simplement, imaginez que vous ayez posé cette question-là il y a 50 ans. C'est là où ce qui est intéressant...
Qu'est-ce qu'on aurait eu il y a 50 ans? 90% de Français qui...
Ce sont les évolutions. Et ce que ça vous dit, c'est est-ce que pour les gens dans les années 50, dans les années 30, etc., combattre pour son pays apparaissait comme normal? Ça ne se remettait pas en cause. Pour la génération d'aujourd'hui, c'est absolument pas une évidence. Et donc la question qu'on peut se poser... Et elle rejoindrait peut-être la façon dont les jeunes se positionnent beaucoup, c'est est-ce que pour eux, être français a encore un sens? Et est-ce que pour eux, être européen...
Et dans ce cas, c'est très choquant de voir que 26%, c'est énorme. 26% qui voudraient se battre pour l'Europe.
Mais vous savez pourquoi?
Mais parce qu'on est le grand succès, pas la France.
Quel est le grand succès de l'Europe depuis le démarrage? C'est que l'Europe a permis la paix. Et on a totalement oublié qu'en fait... Le grand succès de l'Europe, c'est garantir la paix, c'est proposer des échanges commerciaux plutôt que des échanges, malheureusement, belliqueux entre les pays. Et là, on voit que finalement, alors que l'Europe garantit la paix, 26% seulement des Européens seraient prêts à la défendre. Mais c'est d'une injustice terrible. Ça montre à quel point, encore une fois, la dimension humaine, la dimension émotionnelle de l'Europe est totalement passée à côté au profit de dimensions rationnelles et technocratiques.
Moi, ça m'a fait penser un peu quand Emmanuel Macron a fait mention d'envoyer des troupes.
Alors, vous me tendez une perche, là, Karima. Oui. Parce que je voudrais qu'on enchaîne.
Juste dire quand même que je pense qu'il y avait quand même une résonance. On a vu les différents pays européens aussi qui ont fait non, on ne veut pas ça. Et que, comme quoi, finalement, les enfants, on ne serait pas prêts à ce que nos enfants aillent se battre en territoire dans un autre pays. Il y avait cette dimension-là aussi, je pense. Et moi, je le lis un peu comme ça aussi.
D'ailleurs, à ce sujet. Alors, juste en avance, Céline, je suis désolé, mais j'ai la phrase du jour pour vous. Elle est signée Matteo Salvini, le numéro 2 du gouvernement italien, qui suggère à Emmanuel Macron tout simplement d'aller se faire soigner. Le vice-chef du gouvernement italien, qui a jugé dangereux le président français, a estimé qu'il devait se faire soigner après avoir de nouveau évoqué la possibilité donc d'envoyer des troupes au sol en Ukraine pour combattre la Russie. Ils doivent se faire soigner. Ah mince, vous pouvez revenir en arrière, les amis. Bon, s'ils ont tellement envie de se battre alors qu'ils aillent en Ukraine, demain, ils les attendent. Et puis, revenons au tout début, voilà, ils doivent se faire soigner. Ceux qui sont de cet avis, ils le disent comme si c'était quelque chose de normal. Et cela vaut pour Macron comme pour Monti. Ils sont dangereux. Sympa, les relations.
C'est le porte-parole de Poutine en Europe depuis des années quand même. Donc il n'y a rien de surprenant. Salvini est totalement dans son rôle. Je ne sais pas s'il est payé par Poutine, mais il est le porte-parole. Vous pouvez vérifier. Tout ce que Poutine fait, etc., il a toujours soutenu.
Oui, sauf qu'il était membre du gouvernement italien. Que, certes, ça sent le retour de bâton pour Emmanuel Macron après cette double déclaration sur le fait d'envoyer des troupes au sol. Mais ça reste très injurieux. Pardon, mais il y a l'homme et il y a la fonction. C'est le président de la République. On ne parle pas comme ça à un chef d'État et à Emmanuel Macron en l'occurrence.
À aucun chef.
Bien sûr.
La République n'a jamais tort. Il faut quand même poser ça en principe.
D'autres responsables politiques ont pu taxer Vladimir Poutine ces dernières années de malade mental, etc. On n'a pas à le faire. Ces outrances verbales n'ont aucun sens et n'ajoutent strictement rien, si ce n'est hystériser un débat qui n'a pas besoin de l'aide davantage. Ça a à être mis de côté, à être méprisé.
Il a essayé d'habiller ses imprudences de langage en ambiguïté stratégique. Avec ça, tu fais de la route. Je veux dire, l'ambiguïté stratégique, elle est on y va ou on n'y va pas. Bon, tout ça est.
C'est pas une raison pour dire qu'on doit aller.
Ça mérite pas de telles insultes.
Franchement, pardon.
Mais ça mérite pas un tel langage et de telles.
Non, Monsieur Salvini est un excité bien connu. C'est pas un problème. Ce qui est intéressant de voir par rapport au débat qu'on avait tout à l'heure sur la politique de Monsieur Bardella et de Madame Le Pen, c'est ce que fait Madame Meloni. Ça, c'est intéressant. Le contraire à peu près de ce qu'elle avait dit pendant la campagne électorale.
Ça annonce
la suite.
Tu le disais tout à l'heure. C'est la politique.
Absolument. Sauf que les faits sont là quand même, là, Meloni.
Il y a quand même dans le fait, dans cette baisse du niveau de langage, quelque chose qui est assez fort, c'est comment voulez-vous rappeler, vous êtes un chef, vous voulez rappeler vos hommes, vous voulez rappeler vos citoyens à d'autres types de comportements. Comment vous faites quand vous vous comportez comme le caïd du coin? Comment vous faites quand même, je suis désolée, mais Emmanuel Macron a dit des choses absolument inadmissibles sur Giorgia Meloni, sur la manière dont elle se comportait? Il a le retour de bâton. Ce que je trouve vraiment dramatique, c'est qu'on ne peut pas être un repère, on ne peut pas être un phare dans la nuit quand soi-même on joue dans des combats de boue. Et aujourd'hui, nos représentants mériteraient de prendre plus de distance et de mieux se comporter.
Il est à 23h30 quasiment. Emmanuel Macron fait le bilan de ses 7 premières années au pouvoir. Il en est très fier. Vous me direz si vous êtes aussi fier que lui. Mais d'abord, Barbara Durand pour un rappel rapide de l'essentiel de l'actualité.
Que la fête commence, la flamme olympique est enfin arrivée en France, à Marseille. Et le premier chaudron olympique de ces Jeux a été embrasé par le rappeur Jules. Peu avant, la flamme avait été réceptionnée par le nageur Florent Manaudou, champion olympique en 2012. Les festivités sont toujours en cours sur le Vieux-Port. Mathilde Panot appelle à exclure Israël du concours 2024 de l'Eurovision. Dans quel but? Pour la présidente des députés de la France Insoumise, obtenir un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Depuis le début de l'année, les pétitions en ce sens se sont multipliées. Enfin, le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions au terme d'un match complètement dingue. Les Bavarois pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score grâce à une superbe frappe d'Alfonso Davies. Mais le héros du match côté madrilène se nomme Rosellou, l'attaquant espagnol auteur d'un doublé en toute fin de rencontre. Il permet donc au Real Madrid de se qualifier pour sa 18e finale de Ligue des Champions. Et ce sera face au Borussia Dortmund, tombeur du PSG hier soir.
Qu'est-ce qui nous a fait Manuel Neuer là sur cette affaire, Barbara?
Une erreur, ça peut arriver.
Ça arrive au meilleur?
Bah oui.
Barbara, vous qui êtes une spécialiste du poste de gardien de but.
Ça peut arriver.
Ça arrive au meilleur. Ouais. Bon. On merci beaucoup, en tout cas, pour, oui. pour ces images. Et à la fin, c'est le Real Madrid qui gagne.
Ça pèse lourd, là.
C'est une évidence. La 15e Ligue des Champions. En même temps, il y a 15 jours, je disais que de Borussia Dortmund, ce serait une formalité pour le Paris Saint-Germain. Donc, je vais arrêter de faire des pronostics. Mais bon, ça sent très, très bon pour les meringues, comme on dit.
Depuis hier soir, je suis un peu moins... totalement rassuré pour les meringués, parce que Dortmund a montré quand même un peu plus que de la résistance.
Arrêtez,
ils ont été incroyables hier.
On n'est plus dans 20h foot sur CNews. Mais c'est pas Dortmund qui a montré quoi que ce soit, c'est le Paris Saint-Germain qui n'a rien montré hier soir.
Les deux, capitaine. Les deux.
Pardon, encore une fois, je vais être la risée de tout le monde si le Real venait à perdre cette finale. Ils vont les manger. Ils vont les manger. Le Real a ça dans son ADN. Le Real a ça dans son ADN et va remporter sa 15e Ligue des Champions. Jean-Claude ne me démentira pas.
Non.
Voilà, merci beaucoup. Allez, hier, Emmanuel Macron a fêté ses 7 ans à l'Élysée. 7 ans exactement qu'il a été élu pour son premier mandat. Il a pour l'occasion publié un message sur son compte Instagram. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est fier de son bilan. Emmanuel Macron qui s'adresse aux Français, qui se félicite. Mes chers compatriotes, il y a 7 ans, vous m'avez accordé votre confiance une première fois. Je mesure chaque jour l'honneur, la responsabilité que ça représente. Il évoque également l'économie française comme l'une des plus solides, avec 2 millions d'emplois créés. Je suis très fier du travail accompli pour le plein emploi et la réindustrialisation du pays, pour le progrès et les services publics, pour la transition écologique, pour l'ordre républicain et l'engagement. Céline Pina, l'essentiel, c'est qu'il en soit convaincu lui-même. Le président est toujours satisfait de son action. Non mais elle est morte de rire, Céline. Qu'est-ce qu'il
me fait rire ? Une petite touche, je pense.
Ah, vous avez toussé ? Vous voulez que je donne la parole à quelqu'un d'autre ?
Oui, c'est ça. C'est une petite
touche. Ah, c'était une petite touche. Oui, qui retenait, d'accord.
Non, sincèrement, je pense que Emmanuel Macron n'est pas un bon politique. Un bon politique, c'est quelqu'un qui prend le...
Un bon politique, c'est quelqu'un qui se fait élire deux fois de suite, président de la République, quand même.
Se faire élire par défaut deux fois de suite, avec 30% de... Ça, c'est possible. Mais en revanche, on a un vrai problème, quand même. C'est que vous voyez bien que les Français, eux, se projettent absolument pas dans une France en train de réussir. Ils se projettent pas dans une France qui crée des emplois, ni qui se réindustrialise. Pourquoi ? Mais tout simplement parce qu'ils ne le voient pas. Je ne nie pas qu'il n'y ait pas quelques petites réussites, mais on n'est pas du tout en train de changer le visage de la France. Et les gens ne pensent pas du tout qu'on est en train de s'en sortir. Ce qu'ils voient, c'est l'industrie qui part, l'emploi qui chute. Et ce qu'ils pensent,
c'est qu'ils vont perdre... Il y a un côté hors sol à se gargariser comme ça.
Aujourd'hui, les Français pensent qu'ils vont perdre leur modèle social. Mmh. Ça les terrorise. Et tout leur vote, tout leur besoin d'être protégés vient de là. Quand ils voient Emmanuel Macron leur répondre ça, il se dit « ce fou va aller jusqu'au bout ». Et il n'a toujours pas compris ce qu'on attend de lui. Donc c'est un vrai problème.
Il fait de la politique. Il veut montrer que l'usure du pouvoir n'a pas d'effet sur lui. Alors les sondages montrent que l'usure du pouvoir existe.
On ne fait pas de la politique.
Vous avez déjà vu un président de la République qui n'est pas satisfait de son bilan ?
Il y en a qui ont l'habileté soit de se projeter dans l'avenir et de réussir à entraîner les gens avec eux, soit de reconnaître ce qui ne va pas. Si vous ne reconnaissez pas ce qui ne va pas, vous ne pouvez pas agir dessus.
En toute sincérité, il y a une forme d'injustice et d'ingratitude en politique, et pas seulement avec Emmanuel Macron, mais avec tous les précédents présidents et tous les derniers gouvernements. Pourquoi ? Parce qu'il y a un décalage absolu entre la politique... les résultats et encore plus les effets. Et parfois, on voit les effets bien après la fin de son mandat. Par exemple, pour reprendre François Hollande, qui avait dit « je me représenterai uniquement s'il y a une inversion de la courbe du chômage ». On savait malheureusement que la courbe du chômage allait arriver, mais après l'élection. Alors il a été jusqu'au bout, il ne s'est pas présenté, mais on a vu l'inversion de la courbe du chômage derrière. Et c'est vrai qu'en politique, et parce que c'est mal foutu, parce qu'il y a une infrastructure tellement compliquée, moi ce que j'appelle cette dysfonction publique, et non pas la fonction publique, parce que tout prend un temps incroyable, il y a des freins de partout. Il y a aujourd'hui, quand on est au pouvoir, on aimerait voir l'efficacité, surtout les résultats de sa politique, appliqués dans un temps un parti qui est celui de son mandat. Ça n'arrive jamais. Et donc, on est toujours en décalage. Donc, c'est vrai que c'est un peu injuste et ingrat. Il faut se mettre à la place des politiques aujourd'hui.
J'ai un défi pour vous. Je voudrais le proposer d'abord à Jean-Claude. Jean-Claude Dacier et Karima pour vous ensuite. Un défi, c'est si vous deviez donner des bons points à Emmanuel Macron depuis 7 ans. Qu'est-ce qui a changé dans ce pays favorablement en 7 ans ?
Une fiscalité plus ouverte aux entreprises. Il fallait le faire, puisqu'on a payé et on continue de payer encore. Et
là, sur l'emploi, par exemple.
Une désindustrialisation dramatique de ce pays due à l'extraordinaire poids des charges sociales dans ce pays.
J'ai dit des bons points. Hein. Si vous deviez donner des bons points, il ne m'a pas écouté.
Comment on conserve notre modèle social, cher ami? Et comment le finance-t-on? Ça, c'est la bonne question. Alors, il a fait des tas de choses et il a fait des tas de choses à l'envers. Moi, je le prenais pour un libéral.
La France est le pays le plus attractif d'Europe. On peut voir le verre à moitié plein.
C'est un des pays attractifs. Il voit bien que la France doit devenir une start-up nation, c'est-à-dire essayer de ne pas rater, comme on a raté quelque chose dans les 30 ou 40 années qui ont précédé. Il va essayer, je ne sais pas s'il y parviendra et si la France y parviendra, de faire en sorte qu'on pèse un peu et qu'on joue un rôle dans le monde numérique qui nous attend. Ce n'est pas gagné d'avance. Mais il a fait par ailleurs beaucoup de bêtises. Quand on voit sa cote de popularité, il est à combien? 28.
On avait dit les points.
28 ou 29. Non, oui,
il n'a pas tenu le défi très longtemps, Jean-Claude. Hein. Non, j'ai demandé, est-ce que vous êtes capable de voir le verre à moitié plein?
Pour un président qui veut réformer, on ne vise pas la réforme
non,
et la popularité.
Il a quand même collectionné les sottises et les déclarations à l'encontre de Blaise.
Mais tu ne peux pas lui reprocher d'avoir essayé de réformer le pays.
Défi non relevé, à moitié relevé.
Voilà pourquoi il n'est pas populaire aujourd'hui.
Oui, sans doute. Mais enfin, s'il s'est égaré, par exemple, de dire des bêtises sur le nucléaire. Tu me disais tout à l'heure s'il s'était gardé de dire des bêtises sur l'Algérie, s'il s'était gardé de dire il y a du boulot, il suffit de traverser pour le
tout. Il a évolué quand même, Jean-Claude.
Mais il a évolué.
La Macronie à la base n'est pas pour l'uniforme à l'école. La Macronie à la base n'est pas vraiment sur la lutte contre l'immigration illégale. La France d'Emmanuel Macron, c'est l'adaptation au gré des crises. Je vous soumets ce commentaire. Je vous le soumets.
Macronien.
Enfin, je n'ai pas à l'aide. C'est pas la question du soir, Jean-Claude.
Je le disais tout à l'heure, mais je vais le répéter. Je trouve qu'il y a un problème dans ce pays qui n'est pas traité et qui est très lourd. C'est le problème de l'immigration et de l'insécurité. Il n'y a pas que celui-là. On a quand même plus de 3 000 milliards de dettes. Vous avez une petite idée de la manière dont on va les rembourser? Je ne le sais pas. On verra. Donc, le pays est dans un état... Je ne dis pas que tout est acheté, loin de là. Il a fait des efforts pour essayer de le réformer. Il n'y est pas toujours parvenu. Rendez-vous compte, 4 mois de bagarre pour passer la retraite à 64 ans. Toute l'Europe y est. Okay, on n'a pas de chance non plus avec les syndicats qui parlent encore comme on parlait dans les années 50.
Mais pour les entrepreneurs, c'est un pays extraordinaire. Regarde les investissements, regarde la BPI, qui a été d'ailleurs créée par Hollande, il faut le rappeler. Mais ce que la BPI fait aujourd'hui, c'est sans la BPI, parce qu'il y aurait autant de start-up qui réussissent, et en France et à l'étranger. Aujourd'hui, vraiment, c'est un pays d'entrepreneurs qui a montré que on pouvait être une start-up nation, attirer des financements et surtout réussir.
Il lui reste 3 ans. Très, très important. Il lui reste 3 ans. 3 ans pour faire quoi, Karim Abrik? Jean-Claude, bien sûr. Si on peut faire tourner un tout petit peu la parole, 3 ans pour faire quoi? Donc, il y a tellement de colère dans ce pays. Service public totalement usé, l'a rappelé Franck. Une insécurité grandissante, immigration toujours incontrôlée, pouvoir d'achat qui reste la priorité des Français. C'est vrai que le système touche à ses limites et on se demande à quoi vont servir les 3 prochaines années.
C'est sûr qu'en plus, vers la fin d'un second quinquennat, l'influence, que ça commence à baisser. En fait, souvent, ça devient même vertigineux. L'influence que peut avoir le président dans les derniers mois, ça devient compliqué. Mais moi, je pense que c'est ça. Le bilan, ça va être aussi pour la suite des choses. Ça va être quoi, cette doctrine, entre guillemets, du « en même temps », parce que Emmanuel Macron, c'était le « en même temps ». Est-ce que ça va survivre? Est-ce que, au contraire, on va se dire, ben, finalement, c'était un peu... Est-ce que c'était vide à voir? Et pour la suite des choses, ça va être le vrai bilan. Et ce sera lui avec lui-même pour Monsieur le Président. Il y a les élections européennes. Souvent, c'est aussi une sorte de référendum en fonction en fait, pour le président qui est déjà au pouvoir. Donc, les élections européennes, on verra si effectivement les sondages en faveur du Rassemblement national, si ça va se concrétiser et si éventuellement la prochaine présidentielle, s'il y avait un basculement effectivement pour le Rassemblement national, ça sera pas nécessairement l'héritage qu'il aurait souhaité.
Le pire bilan qu'il puisse imaginer. Il n'endort pas.
Oui, c'est ça. Et je veux juste revenir, parce que quand il a parlé, il s'est vanté sur la transition écologique, sur les services publics. Mais vous avez raison, il y a les priorités des Français, c'est le pouvoir d'achat, sur la sécurité, sur l'immigration. Ça, on n'a pas encore tout toutes les réponses.
Jonathan, avant d'entendre Emmanuel Macron à Marseille aujourd'hui, qui se félicite de l'arrivée de cette flamme olympique et des Jeux.
Juste un mot, justement, pour parler de la fin du quinquennat. J'ai hâte que ces JO aient lieu.
Que ça finisse.
Parce que ce que j'attends, c'est l'après-JO. Parce que depuis des mois et des mois, on nous dit que la fin du quinquennat commencera en septembre 2024, c'est-à-dire une fois que les JO sont passés, que beaucoup de choses restent dans la cocotte minute, qu'on laisse bien fermer jusqu'à ce que les JO se déroulent dans les meilleures conditions possibles, et que la guerre de succession ensuite commencera, guerre de succession chez les macronistes, pour 27, commencera à partir de après les vacances d'été, commencera au mois de septembre, et en gros le sérieux, le croustillant, si je puis dire, pourrait commencer cet automne.
Franck, je vous donne la parole dans un instant, je veux juste qu'on entende Emmanuel Macron, donc à Marseille aujourd'hui, le président qui espère se refaire une santé politique autour de ces Jeux, écoutez-le.
La flamme est là, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont là dans la vie du pays, dans la vie de la France, on peut être fier. Dans tous les pays qui organisent les Jeux, il y a même parfois du rejet juste avant. Il n'y en a pas eu vraiment dans notre pays. Il y a toujours des doutes, parce que il y a toujours une France qui doute, ou une partie d'entre nous qui voulons voir uniquement les problèmes. Il y a aussi une France qui était impatiente. Les Jeux sont là, la flamme est là, elle est à Marseille, elle est sur le sol français. Et donc je crois maintenant que c'est l'enthousiasme populaire, et c'est pour ça que je voulais être au milieu de tous ici. C'est la fête des Françaises et des Français.
L'arrivée de la flamme, Franck, très politique pour Emmanuel Macron.
Très politique.
Après, Marseille ne peut pas être que la capitale des mauvaises nouvelles. Hein.
Pour reprendre ce qu'a dit Jonathan, la flamme est là, mais je pense que le coup de flamme aura lieu, oui, dans les deux prochaines années. Pourquoi ? Parce que il n'aura...
Le retour des flammes, vous voulez dire ?
Non. Au contraire, c'est là où l'explosion, on va dire, de la réforme, s'il a encore des projets sous le manteau, c'est maintenant qu'il faut les faire. Pourquoi ? C'est sur les deux dernières années. Il n'a pas à jouer sa réélection. Et deuxièmement, s'il ne fait rien, il laissera le RN monter à se battre avec le LFI. Donc je pense qu'au contraire, pour occuper le terrain, il doit montrer que jusqu'au bout, c'est quoi son ADN ? C'est quoi son marqueur politique ? C'est la réforme. Donc je pense que la cavalcade et l'addition des réformes, elles vont avoir lieu dans les deux.
Céline est morte de rire.
Oui, mais tu as raison.
Mais c'est obligé.
Mais parce pour l'instant, il nous parle de l'euthanasie et de la famille. C'est pas tout à fait ce qu'attendent les Français.
Mais parce qu'il garde encore une fois.
Et de la présence des pères, là, dans elle, j'ai pas suivi ça.
Vous verrez.
Bien sûr que tu as raison.
En politique, il y a le réel. Et le réel, il s'appelle est-ce qu'on a une majorité ou pas ? Il n'a pas de majorité.
Non, il n'y a pas de majorité.
Est-ce qu'il peut y avoir un effet JO ?
Non.
Non.
Il y a eu un effet Coupe du Monde 98 pour Jacques Chirac.
Pas sur le Parlement. Le Parlement,
il y a un siècle.
La Coupe du Monde a un effet, mais
les Jeux. C'est l'occasion de se montrer proche du peuple. Il pourrait faire des Jeux à la Jacques Chirac.
Il n'y aura pas d'effet JO tout simplement parce que les classes populaires ne peuvent pas aller assister autrement que devant leur télé aux JO. Donc, de toute manière, déjà, l'aspect fête n'est pas là. Les prix explosent complètement, ce qui en plus les chasse de Paris. Donc, ça va être un petit peu compliqué. Mais le principal problème pour lui n'est pas là. Son problème, c'est qu'il n'a aucun levier politique et qu'à un moment donné, vous êtes obligé de faire passer des lois au Parlement. La seule chose qu'il peut faire passer, parce qu'il a l'outil pour le faire, c'est le 49-3, c'est tout ce qui est budgétaire. Mais sorti de ce qui est budgétaire, il n'a absolument pas les moyens de faire une quelconque réforme. Donc la question, ça va
être... Sauf s'il s'entend avec un parti politique existant.
Exactement.
Comme les Républicains, par exemple.
Ça peut pas
gagner d'avance.
Moi, les Républicains seront en campagne aussi, donc premier qui va s'associer avec Macron qui risque de l'emporter face au RN.
Pourquoi ?
C'est jouable.
C'est pas évident. Possible.
Mais sinon, on leur laisse la place au RN.
Mais il y a des réalités qui sont tout simplement qu'aujourd'hui, LR n'a pas besoin de ça pour récupérer un parti qui n'existe pas et qui n'a pas d'idéologie.
Donc, vous voulez qu'on bascule sur les Jeux ? Est-ce qu'il peut y avoir un effet JO pour le président de la République ? Est-ce que cette fièvre olympique qui doit s'emparer du pays peut le servir, Jonathan ?
Sur Jeux politiques aux Jeux olympiques.
Je pense que les Jeux olympiques correspondent à un temps médiatique qui est particulièrement bien domestiqué, mais les politiques, s'ils arrivent à se rattacher à ce train médiatique-là, en descendront dès que les Jeux seront terminés. Ça va, je ne vois absolument pas quel est le bénéfice que pourront, à terme, si en plus on en est à faire une projection sur dans 3 ans, ce qui me paraît très lointain dans le monde actuel.
En 1998, la France était unie, c'était la France black-blanc-beurre.
C'est cette question que j'essaie de soulever avec vous. Est-ce que cet effet 98
Je ne veux pas être un oiseau de mauvais augure, mais la vraie réussite pour moi des JO, c'est aussi l'aspect sécuritaire. C'est pas seulement l'aspect des médailles.
Pour la perche.
Si vraiment on arrive à passer ces JO, et je peux vous dire qu'ils sont vraiment sur le terrain, et Darmanin fait un boulot de dingue, vous le savez.
Merci donc, pour la transition.
Voilà, c'est l'aspect sécuritaire qui va faire la réussite de cela.
Enfin, il faut que ça se passe bien.
Merci pour la transition. Gérald Darmanin a dévoilé donc aux préfets, aux forces de l'ordre, aux services de renseignement ces dernières heures un plan d'action de lutte contre la mouvance djihadiste en prévention donc de ces Jeux Olympiques. On sait que c'est un événement forcément extrêmement attirant pour les plus radicaux. Le but renforcer les contrôles, redoubler de vigilance. Les explications de Mathilde Couvillers-Flornois.
Le plan d'action est piloté par la DGSI. Dans ce document que nous avons pu consulter, Gérald Darmanin détaille les objectifs de son plan qui vise à resserrer la vigilance sur les 5000 personnes déjà surveillées inscrites au fichier de signalement à caractère terroriste. Ce plan a pour objectifs principaux un suivi sécuritaire accru, une mise à distance de ces personnes surveillées des événements et une neutralisation des menaces. Les profils les plus sensibles davantage surveillés sont les sortants de prison, les étrangers et jeunes radicalisés, mais aussi les détenus terroristes islamistes. Ce plan de lutte antiterroriste vise notamment à systématiser les visites domiciliaires. Ces perquisitions plus fréquentes pourront par la suite initier des signalements et alimenter systématiquement des mesures judiciaires ou administratives. La mesure judiciaire permettra d'ouvrir plusieurs enquêtes sur la base d'associations de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste ou l'entreprise terroriste individuelle et un rapport de signalement. La mesure administrative permettra quant à elle l'obligation au pointage, l'interdiction d'accès aux sites dédiés aux JO, mais plus largement d'interdire le territoire pour une personne porteuse de menaces et l'éloignement des étrangers radicalisés inscrits au fichier se trouvant sur le territoire national. Le 25 mars dernier, en déplacement à Roubaix, Gérald Darmanin a assuré que la police, la gendarmerie et les renseignements français seront prêts.
Jonathan Sixio, le défi sécuritaire est énorme face à une menace plus que réelle.
Elles semblent très sérieuses, ces annonces. Elles ont l'air pour certaines même plutôt formidables. Pourquoi on s'arrêterait après la fin des Jeux? Pourquoi on serait capable d'une telle rigueur et d'une telle fermeté, mot cher à
l'exécutif? Parce que le monde nous regarde et que l'enjeu est trop grand.
Et début septembre, hop, on arrête et on reprend comme en 40.
Parce que vous avez les moyens que ça déploie, notamment dans la capitale. Hein. Vous allez avoir on va voir ce qui se passe à La Baule dans un instant. Vous avez des territoires entiers qui vont être désertés par les forces de l'ordre et que forcément, vous allez avoir un effet de vase communicant en termes de délinquance. Forcément, j'en sais rien et personne ne le souhaite, mais on peut malheureusement l'imaginer.
Des flux de population à l'intérieur même du pays, naturellement. Chaque été, vous avez des zones côtières notamment qui se peuplent davantage ses propres vacances.
Céline ?
Je pense que ce que Franck disait était très juste, c'est-à-dire si on arrive à gérer ce risque terroriste, on aura au moins montré une capacité de contrôle du pays, de nos frontières, d'un certain nombre d'accès dont aujourd'hui nous doutons. Et à ce titre-là, ça aura été une sacrée réussite. Et comme Gérard Darmanin a 2027 en ligne de mire, on peut dire que ce sera sans doute le décollage de Gérard Darmanin si ça se passe bien. En revanche, si ça se passe mal, ça va être un peu compliqué pour lui les années à venir.
Il y a des moments qui se sont mal passés ces derniers mois, ces dernières années pour Gérald Darmanin. Et puis il a même été renforcé dans ses positions, dans ses différents ministères. Jean-Claude, on est prêt, vous pensez ?
Je pense que ça se passera bien. Je pense que les Jeux sont une réussite. Je pense que le président de la République en tirera sans doute un demi-point ou un point de popularité supplémentaire. Ça pose, en face de ça, les conditions de la réussite, c'est des milliers et des milliers, 50 000 minimum, forces de l'ordre, sous toutes les couleurs, avec des moyens techniques considérables.
Je crois que pour la cérémonie d'ouverture, vous avez 35 000 forces de l'ordre en Ile-de-France, 35 000.
35 000, rien qu'en
Ile-de-France.
Ça veut dire que pour un pays cible comme nous, puisqu'hélas, nous sommes un pays cible pour beaucoup d'organisations terroristes, organiser des Jeux, c'est un exploit à laquelle il faut pas le renouveler tous les 4 ans ou tous les 5 ans, et trop souvent. C'est impossible. Et ça va devenir, je pense, pour certains pays, de plus en plus difficile d'organiser ce type de réunion.
Mais vous avez quasiment plus de pays qui demandent l'organisation des Jeux.
Qatar, qui veut tout organiser.
Oui, parce qu'ils ont les moyens.
Comme, non, parce qu'ils hébergent des terroristes et ils les financent. Mais disons-le. Le Qatar est une assurance extraordinaire qu'il n'y ait pas de l'attentat.
Il faut les virer du PSG.
Mais bien entendu, si on veut que le PSG gagne, il faut que le Qatar. Et bon. La catastrophe.
En tout cas, en prévision de cette mobilisation de forces de l'ordre, notamment autour de la cérémonie d'ouverture et de la quinzaine des Jeux Olympiques, à la boule, le maire Franck Louvrier a décidé d'armer sa police municipale. Une décision approuvée par la population. Regardez ce reportage de Michael Chahut, on en dit un petit mot.
Le local est tenu secret. Depuis un mois, Fabrice fait partie des trois premiers agents de la police municipale de La Baule à être équipé d'une arme létale, un Glock 45.
Nous avons des agents qui sont partis en formation récemment, donc qui seront armés, on va dire, sous 15 jours. Globalement, d'ici la fin de l'année, vingtaine d'agents qui seront armés.
6 agents sur 36 seront armés dès cet été et ça tombe bien car La Baule multiplie par 10 sa population en juillet-août. Mais JO oblige, la ville devra se passer de l'habituel renfort de CRS cet été.
Ils seront équipés avant ce manque d'effectifs cet été. Il a fallu se débrouiller par nous-mêmes avec les moyens que l'on a, à la fois financiers mais aussi humains.
La délinquance est en baisse de 16% entre 2022 et 2023, mais la population comme les policiers eux-mêmes souhaitait cet armement.
On est très, très souvent les primo-intervenants. Et pour bien pouvoir protéger la population, il faut déjà être capable de se protéger.
Moi, ça me fait ni chaud ni froid. On se sent plus en sécurité, mais c'est tout.
Ces deux agents ont accepté de venir à La Baule car ils savaient que la ville voulait armer ses policiers municipaux. Coût pour la collectivité en équipement et formation, 120 000 euros pour 2024.
Comme tous les moyens seront à Paris, il faut bien s'adapter. Un mot sur cette initiative à La Baule.
Jean-Saul, il y a plus de 48%, je crois, maintenant, des polices municipales qui sont armées. Mais à La Baule, mais pourquoi ? D'abord, Franck Louvrier, qui est un ancien, vous savez, collaborateur de Nicolas Sarkozy, qui connaît très très bien et par cœur les problèmes de sécurité, anticipe.
Ils vont tous y venir, mais il n'y a plus qu'à Paris.
Ils vont tous y venir.
Il n'y a plus qu'à Hidalgo quasiment.
Juste d'annoncer ça, il faut penser ce que ça a fait non seulement pour la population de La Baule, mais vous savez que c'est une énorme station balnéaire.
Bah, 18 000 habitants à l'année, 180 000 l'été.
Mais si vous voulez faire venir des touristes, il faut les rassurer. Ça, c'est une opération qui rassure la population et rassure les touristes. Donc c'est une excellente mesure. Il faut que ça se généralise.
Il faut évidemment les former. Mais eu égard à la situation d'insécurité qui règne désormais dans ce pays, avec des affrontements quasiment tous les jours, la police nationale ne peut pas tout faire, elle ne peut pas être partout. Il est indispensable.
Et les Français, majoritairement, les villes, on le rappelle, veulent une police armée
municipale. Que la police municipale, avec formation,
évidemment.
Soit armée et puisse aider la police nationale à
apte à porter une arme à feu aussi.
Non, mais c'est pour ça que ça doit forcément nécessairement s'accompagner d'une formation, évidemment. Mais la menace est tellement grande qu'on peut plus se permettre de les désarmer.
C'est de se demander pourquoi la police a été organisée à un niveau national. Le but du jeu, c'était d'assurer à toutes les personnes sur le territoire le même niveau de sécurité. Donc on estimait que seule la nation pouvait accorder ça. Si on rentre dans les policiers municipaux armés, qu'est-ce qui va se passer ? Vous êtes à Cannes, vous êtes à Nice, il n'y aura aucun souci. Dans un certain nombre de petits bleds, de petites villes, vous allez pouvoir payer et équiper cette police municipale ? Non. Donc en fait, c'est des ruptures d'égalité qui vont avoir lieu de plus en plus sur tout le pays, dans lequel vous avez des coins riches qui vont créer leurs petits ghettos, qui protégeront bien leur population. De l'autre côté, vous aurez des gens qui seront complètement abandonnés et de plus en plus, parce que derrière l'armement des polices municipaux, il va se passer ce qui s'est passé exactement dans toute la décentralisation. Autrement dit, l'État va en profiter pour réduire sa voilure, puisque d'autres prennent en charge un certain nombre de missions. Donc attention, derrière cet armement que l'on salue, il y a peut-être des désarmements et des désengagements qui, eux, nous porteront de lourds préjudices.
Monsieur Woerth va remettre un rapport dans 48 heures où il va justement examiner quelles sont les responsabilités financières des régions et celles de l'État. Ça vient en matière de sécurité.
C'est l'État. Mais le régalien.
Rapidement, un dernier mot, Karima.
C'est important que ça le reste.
C'est fini.
C'est toute la chaîne qui doit suivre. C'est toute la chaîne qui doit suivre aussi parce que, on a parlé de la formation pour les policiers. On a parlé aussi, parce qu'il y a beaucoup de policiers qui vont dire, OK, on est armé ou quoi que ce soit, mais est-ce qu'on peut véritablement agir quand il y a une situation? Il y a ça aussi aujourd'hui. Il y a une difficulté pour les policiers. Je ne dis pas qu'il faut de tirer ou quoi que ce soit. C'est pas ça le point, mais juste d'agir, de se rendre sur les lieux. La légitimité pour les policiers aussi, elle est questionnée aujourd'hui.
Bien sûr. Bon, avant de se quitter, avant la cérémonie d'ouverture du 26 juillet, à laquelle nous serons tous évidemment au premier rang et nous nous réjouirons, la une de... Non, mais le prix des billets, je ne sais pas combien c'est, mais moi, j'aurais pas ce privilège. Les kiosques dans la presse quotidienne demain, les Jeux Olympiques s'enflamment à Marseille, évidemment. L'édito qui parle évidemment de cet événement également. Les Jeux sont faits par Effrayard. Aujourd'hui en France, le Parisien. Ah oui, c'est vrai que tout le monde parle de ce film. En ce moment, je ne sais pas si quelqu'un l'a vu autour de la table, mais c'est un carton... en salle. C'est en train de devenir un phénomène, ce film d'Artus, un petit truc en plus qui réjouit donc les Français. 1,12 million d'entrées en une seule semaine, le deuxième meilleur démarrage de l'année. Donc longue vie à ce film, le Parisien, qui évoque aussi bien sûr l'accueil de Marseille pour la flamme. Ouest France, Europe, des Français fiers mais inquiets, un sondage région par région sur le regard des Français sur l'Europe, à suivre donc et à lire surtout dans Ouest France. La Voix du Nord, qui est bien loin de Marseille mais qui fait sa une sur cette belle flamme olympique qui est arrivée à bon port avec cette image de Jul, donc le rappeur, on en a parlé en début d'émission, qui a enflammé le chaudron olympique. Et la Marseillaise, bien sûr, il fait la part belle à Jul. Médaille d'or et de platine, vous avez compris le jeu de mots? Médaille d'or et de platine. Non, parce que c'est, et Martin va me le confirmer dans l'oreille, c'est le nom de son dernier album en fait. Médaille d'or et de platine. Ou non, ça s'appelle D'or et de platine. Et il a dit tout à l'heure sur le Vieux-Port, au moment où il a allumé le chaudron, je souhaite aux athlètes français d'avoir des médailles d'or, des médailles d'argent et de platine.
Il se fait de la promo. Donc,
il est bon, hein. Il est très très bon. Et vous avez vu en haut très vite, en 20 secondes, regardez Jean-Claude, en haut de la Marseillaise, là, sur le bandeau, aux Olympiens de mettre le feu, Atalanta, OM, match retour demain. On rappelle qu'ils ont été tenus en échec un partout. Pronostic pour l'OM demain, Jean-Claude Dacier, président.
Je pense qu'ils vont gagner d'une courte tête, et ça sera pas facile parce que Bergame est très fort. Imaginez Marseille en finale. Demain soir.
À jamais le premier.
C'est les 24 heures où les
Martin Mazur.
Les plus somptueux.
Maxime Fer.
Après l'élimination
Coralie de Leplace. On est très en retard, les amis. Je suis désolé de vous couper la chic, comme on dit. Mais il faut rendre l'antenne. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Donc aux équipes en régie, en rédaction. Soir Info revient demain soir. D'ici là, l'édition de la nuit avec Simon Guillain. Bonne nuit à tous.